Dans le tempo, épisode 3, on est déjà de retour et on se retrouve juste après le générique. Thomas présente. Dans le tempo. Vous êtes bien dans le tempo, le podcast des passionnés de musique. On est vraiment content de vous retrouver. Vous savez, on parle de tous les aspects de la musique, toujours avec un prisme moderne. Évidemment, je suis avec mon gars Michel, alias Chronomusique. Comment ça va ?
Yo, ça va et toi ? Ça se passe ?
Très bien. Bah grave, mais attends.
Petite casquette jaune.
Déjà, t'as vu, j'ai mis la casquette, stylée et tout, tranquille. Et surtout, je me demande, mec, où en est la Spotify Money ? Le piano solo, ben pour... tout ça. Où ça en
le
est ?
Le piano solo ? C'est pas encore lancé, le piano. Enfin, j'ai juste lancé la page du piano solo. Ça s'appelle Sleepy Keys. Allez, cliquez ça comme jambe. Ça sort, je pense, le 14 août. Le 14 août, j'ai un premier EP qui sort. Et en gros, je vais balancer un EP 3 titres tous les mois. Et voilà, faut cliquer quoi.
T'as pas écouté le mec de Spotify, toi. Il dit faut sortir toutes les semaines des trucs et tout, faut être chaud.
Toutes les semaines, mais j'ai pas le temps de faire ça toutes les semaines. On fait déjà ça.
On espère que tous ceux qui nous écoutent passent un bon été. Vous avez certainement plus de temps que d'habitude, donc profitez-en. Regardez nos émissions, écoutez nos podcasts. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Monte le son pour mater des vidéos. Le podcast, il est aussi en audio. Spotify, Apple, Google Podcast, tout ce qu'il faut.
Tout y est.
Mais absolument, lâchez des commentaires, vous savez comment ça se passe, ça nous aide, il faut nous donner de la force. Et aujourd'hui, on est parti d'un constat. Le rap, il est omniprésent dans notre quotidien musical. Il est beaucoup mis en avant à travers le streaming, la vidéo, tout ça. Il influence les autres courants musicaux, l'esthétique est partout, même dans la mode. Mais pour autant, le rap fait encore débat. Que ce soit dans les médias généralistes, chez les amateurs de rap, chez les musiciens. On le voit, nous, dans nos commentaires. Bref. C'est un style musical très vivace, protéiforme, et qui cristallise plein de tensions, mais aussi plus généralement des questionnements liés à notre société. Et il se trouve qu'on a une invitée qui utilise le rap comme outil pour analyser notre société, justement. On va donc se demander ce que le rap dit de nous grâce à notre invité. Michel, est-ce que tu nous la présentes ?
Est-ce que je serai à la hauteur pour présenter la grande Benjamin Veil, dont je suis un fervent fanatique? Après, c'est le mot est peut-être grand parce que j'ai pas assez digué, mais en tout cas, je te connais, Benjamin, par Aloha News et les fameuses vidéos Punch Life. Et je trouvais ça incroyable et c'est pour ça que je voulais t'avoir dans cette émission aujourd'hui parce que j'aimais vraiment bien l'axe que tu prends, pour vraiment concilier culture populaire et on va dire culture classique. Et je pense que c'est un bon moyen de faire comprendre aux gens un des intérêts du rap, en tout cas, sur le fond, même s'il y a peut-être des... Enfin, en tout cas, il y a des gens qui peuvent être rebutés par la forme, mais je pense que si les gens s'intéressent au fond et qu'ils tombent sur tes vidéos, ça peut les intéresser vachement. Pour te présenter quand même vite fait, parce que Salman nous a fait une petite fiche, donc t'es philosophe, t'es intervenante dans le médico-social, en formation, en accompagnement, etc. En parallèle, bon, évidemment, t'es passionné par le rap depuis ta jeunesse, et notamment, c'est un voyage aux États-Unis dans les années 90, chez nous on dit 90, mais bon, durant lequel tu vas vraiment te prendre le hip-hop dans la face, quoi. Et puis de là, tu as construit une carrière dont tu vas peut-être nous parler un petit peu plus. Et actuellement, donc, tu tiens un blog sur Mediapart dans lequel tu analyses le discours rap et t'interroges notre société à travers ce prisme-là. Bienvenue, Benjamin.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Ravi d'être avec vous. Hein, quelle jolie présentation de l'un comme de l'autre, du concept comme de ma petite personne. C'est gentil, merci.
Tu sais, moi, je suis fanatique. Hein.
Ouais, fanatique, c'est presque angoissant comme mot, faut faire gaffe. Hein.
Benjamin,
en tout cas, merci.
Merci à toi d'être parmi nous. Et comme on le disait, l'idée, c'est vraiment de se dire que, notamment ta démarche, mais même de manière générale, je pense que c'est pertinent pour plein de monde, cette idée que la musique, de manière générale, et un mouvement comme le rap, parle de notre société, et qu'on peut l'utiliser comme outil pour analyser notre quotidien, tout ce qui traverse vraiment notre société. Et justement, Benjamin, tu considères le rap comme un objet d'étude. Pour quelle raison ? Comment s'est née cette idée de mêler à la fois ta formation philosophique avec ta passion le rap ? Et surtout, en quoi c'est pertinent le rap pour comprendre notre société, ou en tout cas l'interroger ?
Déjà, peut-être parce que finalement, moi, quelque part, je rencontre la philosophie et le rap à peu près au même moment, déjà. C'est-à-dire que je suis, comme comme tu disais, chrono, c'est vrai que je suis aux États-Unis, moi je sors du collège, en fait je suis en fin de troisième quand je pars un an dans une famille d'accueil à l'étranger. Et c'est vrai que là-bas, je découvre aussi quelque part les sciences humaines et la philosophie, en même temps que je vais découvrir, que je vais me prendre le hip-hop, j'ai envie de dire, même à l'époque, vraiment dans la figure. Donc il y a quelque chose d'assez simultané pour moi déjà dans l'approche, et les deux, pour moi, viennent me parler de quelque chose qui touche à l'existence, c'est-à-dire à quelque chose de l'ordre de la vie, de qu'est-ce que c'est que de se débrouiller, des questionnements, des façons de penser. Je viens quand même déjà, en termes de culture musicale, de plutôt des, je veux dire, la musique à texte, Brassens, Renaud, enfin voilà, dans ce que moi j'aimais, déjà un petit peu avant ça. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse dans la réflexion, et dans la philosophie, la question du discours et de l'esthétique, enfin de l'art en général, est toujours très présente en fait. Donc pour moi, les liens sont assez évidents, en fait. C'est d'ailleurs presque étonnant que je doive le démontrer encore aujourd'hui de pourquoi le faire. Alors, ça n'enlève rien à la pertinence de ta question, mais c'est toujours quelque chose qui me surprend que ça vienne interroger autant de gens, qu'on fasse le lien entre philosophie et rap. C'est une évidence. À partir du moment où il y a de l'art, il y a une proposition de discours, il y a une proposition sur le monde, il y a une certaine façon d'envisager les choses. Donc forcément, la philosophie peut venir s'y intéresser au sens de qu'est-ce que ça vient nous raconter et de qu'est-ce que ça vient révéler. Alors, c'est vrai que j'ai une vision de la philosophie qui est plutôt contemporaine. Je ne suis pas trop dans les questions dites métaphysiques. Je ne suis pas forcément dans des choses de... Ce n'est pas la vérité qui m'intéresse, moi, enfin, au sens avec un grand V, le beau, le bien, le vrai, là. C'est plus ce qui, pour moi, m'intéresse, c'est les expériences, c'est les rencontres, c'est les choses qui ne vont pas ensemble, c'est ce qui vient choquer. Moi, je suis plutôt d'une philosophie qui vient choquer l'esprit, qui se méfie des évidences. Donc, le rap, tout le monde avait l'air de le décrier. Forcément, moi, dans ma démarche, je me suis dit, bah, allons-y, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que tout le monde a l'air de détester, ça m'intéresse d'y aller, en fait.
J'ai l'impression que tu nous dis que toute forme d'art, potentiellement, peut être analysée à travers le prisme de la philosophie, peut être liée d'idées choses. Est-ce que le rap, par rapport à d'autres formes d'expression musicale, a des particularités qui font que, justement, cette démarche est quand même différente que si tu l'avais appliquée, je sais pas, au rock, à la variété, à d'autres styles musicaux?
Déjà, la notion de variété, je ne peux pas dire que c'est un mouvement à part entière, dans le sens que la variété est créée par l'industrie. En fait, la variété, c'est ce qui, justement, va proposer du flux dans les radios, comme on dit classiquement. Voilà, de suffisamment varié pour que ça puisse servir à tout le monde.
C'est un terme assez fourre-tout.
Voilà, voilà. Je pense que ce qui m'a intéressé, en fait, dans la démarche, j'ai envie de dire hip-hop, du rap au départ, c'est le côté système D. C'est le côté débrouille, en fait. C'est le côté de comment on va s'approprier quelque chose de son environnement pour le rendre beau. Sans forcément essayer de partir d'une connaissance musicale. C'est vrai que jusque-là, on est obligé quand même de maîtriser un instrument avant de pouvoir rentrer dans la musique. La maîtrise de l'instrument suppose de passer par des cours, donc par quelque chose qui peut s'apparenter à de l'académique ou du scolaire. Alors qu'à travers la culture hip-hop, il y a quelque chose, que ça soit d'ailleurs du côté de la danse, du côté pictural, donc du graphe, ou du côté du rap, il y a quelque chose qui s'approprie en fait et qui se transmet presque oralement entre pairs et non plus de manière verticale. Ça devient très horizontal. Et là, même d'ailleurs, en termes de pédagogie, éducativement, c'est super intéressant. Là, il y a quelque chose vraiment qui donne à penser sur un déplacement, justement, du rapport même au savoir et à l'inscription que ça met quand même dans l'histoire de l'art, sans en connaître les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que c'est toujours intéressant. Moi, on dit souvent, là, par exemple, on a pris récemment l'exemple de Kobalade qui ne connaît pas Ayam. Mais en fait, ce n'est pas grave de ne pas connaître forcément son histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne participe pas, en fait, de ce qu'on est. Mais parfois, c'est de manière totalement inconsciente. Mmh. Et c'est intéressant aussi, voilà, en termes de développement. Donc ça, voilà, il y a quelque chose dans le côté presque historique des choses qui m'intéresse, dans ce que ça vient apporter comme retournement, en fait, de vision du monde. Jusque-là, il fallait acquérir de ses aînés pour pouvoir transmettre quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se construit aussi plus, justement, du côté de la transversalité.
Et moi, je me posais une question vis-à-vis de ton rapport au rap, justement. Enfin, comment dire ? Qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au rap au moment où le rap a commencé à prédominer à peu près toute la culture musicale, tu vois ?
Alors, c'est assez particulier parce que moi, j'ai presque 10 ans, finalement, où je ne suis plus tellement dedans. Je fais autre chose, je suis dans le social, le médico-social, enfin, je travaille sur d'autres choses. Je travaille avec du rap, avec des jeunes, mais je ne suis plus dans le digging de tout ce qui sort. Tu vois, je vais avoir une grosse période 95-2005, ça c'est clair. Et puis après, je reprends 2015. Donc, quelque part, le moment où ça devient extrêmement hégémonique, je le vis plus par la cour d'école de ma fille que je ne le vis par du digging. Donc, je le vis plus par le côté variété, en fait.
Ouais.
Je le découvre Et moi, j'ai fait partie de la génération qui a dit non, section d'assaut, c'est une bonne chose, parce que ça démarre un peu avec ça. Enfin, bon, ça paraît loin pour certaines personnes, mais moi j'ai trouvé très vite que section d'assaut, il y avait quelque chose de bien, même si tout le monde disait, ouais, c'est dans les cours d'école, c'est pour les petits, ça raconte plus rien. Enfin, déjà, hein, il y avait déjà, et je vais dire, déjà en 98, il y avait des choses comme ça entre la nouvelle école et l'ancienne école. Est-ce qu'on met des refrains chantés? Est-ce que c'est pas trop variette? Enfin, voilà, il y a des débats qu'il y avait déjà à l'époque, hein. Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé déjà que section d'assaut, quand ils sont arrivés, moi, je trouvais ça sympa de voir que des gamins pouvaient rentrer dans l'esthétique hip-hop très jeune pour pouvoir ensuite peut-être développer autre chose, aller vers autre chose. Donc moi, j'y ai vu quelque chose de plutôt positif. Après, ouais, comme tout, il y a des effets pervers à tout aussi. Enfin, voilà, y a quelque... Moi, je trouve quelque chose de bien, c'est que ce qui était l'objectif initial, qui était quand même de tout niquer et d'envahir tout le monde, bah, c'est gagné, quelque part.
Ah, maintenant, c'est niveau-là, c'est sûr.
Avec les effets pervers que ça a aussi, à savoir que bah, y a quelque chose qui peut se perdre de l'essence, de l'éthique, de l'engagement initial... Et en même temps, il est encore là, mais il est juste pas mis en avant, c'est tout.
Justement, là, on parle d'une certaine manière de la diversité qui existe dans le rap. J'aimerais bien, si vous le voulez, bien qu'on fasse un point sur la diversité qui pouvait exister auparavant et sur celle qui peut exister aujourd'hui. Parce que je pense quand même que le rap n'est plus le même, ça c'est certain. Mais on peut avoir tendance justement à se dire, aujourd'hui, c'est un truc tellement grand public qui s'est ouvert, qui est beaucoup plus varié qu'il ne l'était auparavant, et se dire qu'auparavant, c'était peut-être quelque chose d'un peu plus figé, où il y avait seulement quelques codes très précis, etc. Et est-ce que c'est vrai à ton avis, ou est-ce que déjà, il y avait une grande diversité auparavant dans le rap, que ce soit dans les thématiques, dans les personnes qui le pratiquent, qui l'écoutent?
Alors, je dirais qu'il y avait des patterns un petit peu plus marqués, c'est-à-dire une espèce d'identité, parce que des thématiques, elles sont toujours présentes. Parfois, c'est les mêmes depuis 25-30 ans, en fait, sur certaines choses. D'ailleurs, parfois, c'est triste. Quand on voit la question des violences policières, par exemple, ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, quoi, et que c'est toujours la même chose. Enfin, voilà, donc il y a des choses très, très graves, d'ailleurs, moi, je trouve, en tout cas, dans les patterns qui se répètent. Mais, en fait, pour moi, déjà, il y avait une diversité. Déjà, c'était pas la même chose. Je vais prendre, j'ai envie de dire, des classiques, mais c'était pas la même chose d'écouter Minister Hammer, d'être plutôt crew Minister Hammer, d'être plutôt la Clica ou d'être plutôt NTM. C'était déjà pas du tout la même démarche. Et encore, j'ai pas dit IAM, parce qu'il y avait aussi la guerre Marseille-Paris qui est beaucoup moins présente aujourd'hui, qui était très marquée à l'époque, hein. C'est-à-dire que les Parisiens n'écoutaient pas les Marseillais et vice-versa. Il y avait un truc, en tout cas surtout les Parisiens, en fait, on va être honnête. Voilà, les Parisiens avaient quand même un truc. Mais voilà, il y avait le rap du 93, le rap du 95, donc, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a le rap du 91. Qui est apparu, et moi qui viens du 91, je suis très heureuse qu'enfin le 91 ait sa place digne, j'ai envie de dire, une dans le paysage rapologique, maintenant une vraie belle place, qui quelque part concurrence le 93 où j'habite aujourd'hui, ce qui est assez drôle. Mais, la diversité, elle a toujours été présente, sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui en font, il y a plus de gens qui s'y essayent, donc forcément, elle est encore plus grande, la diversité. La diversité, elle se joue, enfin pour moi, n'importe quel rappeur, normalement, alors ça, c'est peut-être aussi un truc qui peut se perdre un petit peu, mais normalement, l'idée du rappeur, c'est qu'il vient apporter quelque chose d'original par rapport aux autres. Donc, chaque rappeur a son style, son flow, son univers, en fait, normalement. Donc, propose un rap différent de celui d'à côté. Voilà. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, la dimension variété du rap peut faire perdre un petit peu, à savoir cette dimension de l'originalité, de l'apport, de « je viens apporter un truc ». Mais il y en a encore qui le font. Il y en a encore qui osent ne pas rapper exactement dans le beat attendu, ou qui proposent des punchs qui sont radicalement différents, des constructions de phrases qui peuvent être radicalement différentes.
J'ai même l'impression que c'est un peu nécessaire maintenant pour se démarquer, parce qu'il y a une telle offre. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, le succès d'un Kobalade, c'est quand même vachement tourné autour de ça. Et j'irais même plus loin, je pense que tout le débat qu'il y a pu y avoir sur lui, c'est ça qui l'a fait percer plus qu'autre chose, même si je lui reconnais du talent et de l'originalité, etc. Mais l'idée qu'il y ait énormément de gens qui aient pu se foutre de sa gueule, ça lui a donné en fait énormément de force. Il était mémable, tu vois. Genre, tu peux le partager, tu peux l'imiter et te foutre de sa gueule, etc. Et ça fait parler de lui et c'est bon pour lui, tu vois. Il y avait
ce que tu décris, c'est la logique du buzz, en fait, qui est une logique qui dépasse le rap et qui est plutôt une logique, j'ai envie de dire, de l'actualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de toi, que ça soit en bien ou en mal, on parle de toi. Enfin, voilà, ça, c'est ce que beaucoup de gens ont compris. Enfin, je sais plus d'ailleurs qui disait ça. Je crois que c'est Tapi qui l'avait repris, je crois. En attendant, quelqu'un comme Gynéco a pu aussi avoir aussi des phases comme ça. C'est-à-dire que Gynéco, on parlait de lui quand même partout dans les médias, en fait. Et d'ailleurs, il dit, et qui disait qu'il faisait du rap variété. Hein. Enfin, voilà, il a quand même énoncé dès le départ. Donc, c'est pas nouveau tout ça, en fait, non plus. C'est pas si original que ça, en fait. Par contre, moi, je dirais, voilà, Kobalade, moi, je vais attendre de voir sur 2-3 si, justement, il garde son originalité ou s'il fait un coup comme ça d'essai, et on va voir. Voilà. Ouais. Maintenant, ça n'enlève rien à l'originalité de certains. Après, c'est comment cette originalité, elle va s'inscrire aussi dans, pour moi, une rencontre entre trois éléments qui sont quand même toujours un flow, un beat, un texte. Voilà. C'est cette articulation-là entre trois éléments majeurs qui vont parler à certains et puis pas à d'autres. Hein. Voilà, on n'a pas les mêmes sensibilités après. C'est des questions de sensibilité. Comment ça s'articule et comment aujourd'hui, on vient proposer quelque chose d'original dans le mix que ça représente. Maintenant, de la diversité, il y en a aujourd'hui. Il y a plein de courants entre le cloudy qui n'a plus rien à voir avec même la trap classique, avec encore, il y a encore du boom bap et du boom bap mélangé à de la trap. Enfin, même là-dedans, tu as plein de nuances en fait entre les différentes familles. Tu as la drill, mais tu as plein de choses en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as plein de façons d'envisager la question du rap musicalement en fait. Il y a ce qu'on appelle la pop urbaine. Est-ce que c'est du rap ou pas? Enfin, ça, c'est toujours des questions et moi, je ne suis pas là pour trancher. En tout cas, je ne suis pas là pour dire si ça en est. En tout cas. Mais moi, ce que ça vient me dire, c'est qu'aujourd'hui, ça envahit tellement partout qu'il n'y a plus simplement la question de celui qui prend un mic va apporter quelque chose, mais l'idée de je me revendique par un courant musical issu du rap. Enfin, ça, c'est pour dire l'ampleur que ça a pris, en fait.
Ouais. Et en même temps, tu disais que c'était aussi fragmenté auparavant entre Paris-Marseille, entre Ministère Amer, c'était pas pareil que NTM, c'était rap plus street par exemple. Enfin,
c'est ça, c'est je marche pour ma familia. Il y avait des vraies familles. C'est un peu resté cette idée-là. Quand tu vois le succès de Nino, par exemple, qui est quand même très lié à Argenteuil, enfin à son quartier, enfin voilà, il y a quand même encore des choses qui sont présentes là-dessus. Mais c'était. Je pense que le clivage, il était plus réduit parce qu'en effet, on était au balbutiement. Si tu prends le hip-hop comme un arbre, tu vois, tu as les racines qui sont sous la terre, donc on ne voit pas, qui sont tout ce qui est la funk, le jazz, la soul. Le tronc, j'ai envie de te dire, c'est entre. Mi-70, début 80, on va dire 2000, où on est sur un truc un peu essentialiste, le rap c'est ça et c'est pas autrement. Enfin, d'ailleurs, qui renvoie à des idées de puristes, alors que déjà c'était autre chose. Quand tu vois TSN, quand tu vois TTC par exemple, enfin pas TSN, TTC qui propose quelque chose de complètement différent déjà à l'époque. Enfin,
ouais, voilà.
Bon, moi j'écoutais pas, c'était déjà pas ma cam. Enfin,
la scène dite rap alternatif.
Ouais, voilà.
Ouais, ou le rap comique. Enfin, il y avait déjà du rap comique avec Dizzy's. Enfin, il y avait déjà des trucs. Enfin, maintenant, c'était moins diversifié parce que ça n'avait pas la même ampleur. Il faut mettre les choses dans un contexte. Mais finalement, c'est tout aussi dynamique.
Tout ça, ça me fait penser, j'essaye de réfléchir à ces histoires un peu de la scène rap auparavant, celle d'aujourd'hui, l'évolution qu'elle a pu connaître, et notamment dans le profil des rappeurs. Et vous me dites si... Enfin, moi, je me suis toujours dit que dans le rap, à un moment, la question du vécu, de l'authenticité, était primordiale. Et qu'il fallait avoir une forme de légitimité.
Street cred.
Ouais, absolument.
Street cred.
Et que si je dois vraiment mettre le doigt sur un grand changement, j'ai l'impression que ça a quand même un peu changé. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs qui ont des passifs, des histoires extrêmement différentes, peut-être plus qu'auparavant. Et ce qui fait aussi qu'on a des formes de rap peut-être un peu plus diversifiées, en tout cas dans ce qui se fait auprès du grand public, qui est mis en avant, etc. On sait très bien qu'il y a toujours eu plein de petites niches, plein de petites scènes, etc., très différentes. Ouais. Est-ce que ça vous parle ce que je dis, ou je fais fausse route ou...
Alors moi je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que le point de rupture ricain avec ce truc-là, c'est Rick Ross. C'est quand Rick Ross s'est mangé son buzz avec 50 Cent et que 50 Cent a sorti les dossiers en mode... t'étais un officier de correctionnel avant, etc. Tu vois, t'as pas du tout le lifestyle que tu prétends avoir, etc. Et qui commençait à sortir des dossiers en se disant il est pas authentique. Donc du coup, c'est ce que j'imagine que 50 se disait. Tu vois, je vais montrer qu'il est pas authentique. Et du coup, sa carrière va s'en ressentir. Et pour moi, c'est la première fois dans le rap. Après, je peux me tromper. Je suis vraiment pas un spécialiste, tu vois. Mais c'est l'impression que j'ai eu en diguant 50 Cent et le clash avec Rick Ross, c'est que ça a été quand même un espèce de point de rupture. À partir de ce point-là, en tout cas, je sais pas si c'est une cause ou si c'est juste un truc comme ça, quoi. Mais c'est une illustration d'un moment où le public s'est dit, c'est pas grave, en fait, on peut écouter quand même. Et il kiffait la vibe et il continue encore aujourd'hui à se faire passer pour plus ou moins Pablo Escobar et les gens écoutent quand même. Après, alors qu'ils savent que c'est un mytho.
Je précise juste quand même ma pensée quand je parlais de street cred, d'authenticité, etc. C'est pas forcément d'être un gangster. Hein. C'est juste de venir, d'avoir une histoire qui fait que tu comprends, que tu partages les codes des autres parce que tu as vécu une histoire plus ou moins commune. Et en tout cas, tu sais de quoi tu parles, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais je pense que c'est juste un exemple de gangster rap, tu vois. Mais je veux dire, je pense que ça illustre bien cet esprit-là qui, je pense que, ouais, maintenant, les gens s'en foutent si t'es... Enfin, je dirais pas que les gens s'en foutent si t'es authentique ou pas, tu vois. Parce que, par exemple, un Jul, je pense que l'essentiel de son succès, il est quand même basé là-dessus, sur l'authenticité. Ouais, par contre, je pense que il y a le grand public n'a... Autant ça peut être valorisé, autant, d'un autre côté, on peut te dire, ben, en fait, on s'en fout si... Il raconte des trucs, il raconte des histoires. Voilà, on s'en fout, quoi. Genre, tant que la forme plaît... Ouais, ben, c'est... Enfin, ça... C'est à l'époque où le storytelling était en vogue, ça n'a jamais posé de problème à personne qu'un type dise « je » et qu'il il personnifie une ville ou, tu vois, genre des trucs comme ça, quoi. Donc, pourquoi tu pourrais pas être un faux drogué ou un faux je sais pas quoi, tu vois. L'essentiel, c'est que tu nous emmènes dans un univers épais et consistant, tu vois. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça me dérange pas d'écouter des mythos, tu vois. Genre, après, j'aime bien aussi entendre du vrai. En tout cas, des gens archi crédibles, parce que le vrai, qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais en tout cas, genre, j'ai cette schizophrénie-là et je l'assume, quoi. Genre, des fois, j'aime bien entendre du vrai. Des fois, ça me dérange pas d'entendre des mythos. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu...
Comme tu viens de le dire, c'est la question du vrai qui a changé aussi, en fait. C'est aussi du rapport à la vérité, à la connaissance, au réseau. Enfin, voilà, parce qu'en fait, c'est tout ça aussi qui est derrière. C'est la question de la street cred n'était pas plus vraie hier qu'aujourd'hui, en fait. Ça a toujours été des postures. Ça, voilà, ça s'appelle des postures. C'est aussi des postures un peu qui allaient avec une forme de... On peut le dire, de virilisme aussi, de façon de se dire, c'est moi, tac, moi je viens de la rue, moi je m'en suis sortie, moi j'ai fait de la boxe, tac, tac, je m'en suis sortie. Enfin voilà, mais qui était une chose aussi qui était vraie, attention, mais qui finalement, quand tu les retrouves 20 ans plus tard, ils en sont revenus eux aussi, hein, c'est un truc de 20 piges aussi, de jeunes garçons, cette dimension-là déjà, en fait, de se positionner comme étant quelqu'un qui fait peur, qui vient de la rue. C'est les codes du virilisme, en fait, qui s'expriment à travers ça. Et comment, finalement, le jeune garçon, qui qu'il soit, quelle que soit sa génération, va se construire malgré tout à travers ces codes. Et donc, se positionner pour être un exemple, voilà, de viril, parce que quand même, il y a ces enjeux-là aussi, hein, dans le star system, sans même parler que du rap. Le star system, c'est aussi ça. Bah, pour pouvoir être regardé comme un homme viril, il faut que je m'invente un passif de dangereux, on va pas se mentir, ça fait partie des choses. Les filles n'aiment pas les mecs gentils, les rats aiment les lascars, qu'est-ce que c'est d'autre comme chanson? Enfin, on est en 96, enfin, réécoutez-la, enfin, vraiment, je pense que la plupart, ils ont rien inventé, enfin, tu vois, non plus. Mais ça n'empêche que là-dessus, ce type de positionnement-là sont des positionnements qui, normalement, évoluent justement avec le temps. Aujourd'hui, on est en train de les renforcer, et notamment par des aspects qui sont liés au jeunisme de la société, où l'idée de vieillir, c'est pas une bonne chose. Donc, même celui qui a 40 ans, il veut continuer de faire le beau gosse de 20 ans, qui est dangereux, qui est horrible, et que, voilà, qui se tape toutes les meufs, alors qu'on sait très bien qu'à 40 ans, normalement, il est passé à autre chose dans sa tête. Sinon, ça veut dire qu'il va pas bien.
J'entends un nom qui résonne. En fait, j'entends un nom qui...
Je ne donnerai pas de nom. Donc, mais c'est pas une question. Voilà, tu vois, mais j'ai envie de dire, c'est un archétype, parce qu'il y en a plein des comme ça, en fait. C'est surtout que normalement, voilà, quand t'évolues, j'ai envie de te dire, si t'évolues de manière un peu épanouie avec toi-même, t'as plus besoin de venir revendiquer ce que t'es et d'où tu viens. C'est un truc, normalement, qui vient quand même de tes 20 ans. Donc, c'est normal que des stars de 20 ans le revendiquent. Mais tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de PNL, qui le revendiquait beaucoup au démarrage. D'où je viens, qui je suis, machin. Les deux frères, ils ont presque 30 ans, ils sont plutôt en train de revenir de ça, ils ont un discours plutôt qui revient de la puissance, quoi, de ces fantasmes de puissance. Parce que la street cred et la puissance, ça va ensemble, en fait. C'est l'idée de, moi, je m'en suis sorti tout seul dans la rue, c'est la loi du plus fort. Enfin, voilà, on est dans des représentations qui sont, en fait, de cet ordre-là. Quelque part, tant mieux qu'elles disparaissent un peu aussi sur certains aspects. Après, elle se renforce, moi, je trouve, à d'autres aspects aujourd'hui, parce qu'on appelle le clivage rap de Yonkli, rap street, en fait. Ouais. Qui, quelque part, même s'il vient dire oui, tout le monde peut faire du rap, ben non, en fait, tout le monde ne peut pas. C'est-à-dire que tu fais du rap de Yonkli, c'est pas la même chose. Voilà, t'es un écouteur de Yonkli, c'est pas la même chose.
Tu peux expliquer juste pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément l'univers du rap, rap de Yonkli.
Alors, ce qu'on appelle le rap de Yonkli, qui peut aussi s'appeler le rap de blanc, hein, on peut le dire, hein, parce que c'est souvent comme ça aussi. Hein. C'est-à-dire que pendant un temps, on disait, voilà, il y a les quartiers qui vendent, les quartiers populaires qui vendent, les quartiers riches qui achètent. Donc, avec cette idée que finalement, le Yankli, c'est plus celui des beaux quartiers, c'est le fils de bonne famille. Hein, on va, voilà, c'est, et c'est vrai que le rap, et voilà, on est plein. Mais je veux dire, déjà dans les années 90, hein, il y avait des enfants de bonne famille qui écoutaient du rap. Cassouvide, c'est quoi d'autre? Cassel, c'est quoi d'autre? Non, mais enfin, il y a un moment, faut le dire aussi. Courtrage, mais c'est quoi, en fait? Enfin, donc, et tant mieux, parce que c'est comme ça que ça a permis à diffuser aussi. Donc, c'est pas que des mauvaises choses. Et ça vient démontrer la démocratisation du truc qui dépasse les classes. Donc, quelque part, tant mieux aussi, ça a des aspects positifs. Mais attention à ce que finalement, à travers ça, on n'est pas en train de lisser aussi finalement le rap street. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement du rap street s'est presque mis en contre ça, pour être de plus en plus street, presque.
Ouais.
Pour ne pas lisser non plus cette dimension qui est quand même que, enfin, pour ne pas tout rendre variétable et radiodiffusable.
Un instinct de survie, en fait.
Voilà. Il y a aussi ce truc de, et c'est d'ailleurs intéressant parce que des gars comme Vald ou Orelsan, qui sont peut-être ceux dans le rap de Yankli, moi, qui m'intéressent le plus parce qu'ils sont un peu à cheval, en fait. C'est-à-dire que ils sont capables à un moment. Nekfeu peut le faire aussi, mais, et moins, enfin. Pour l'instant, pas encore assez abouti sur ce sujet-là, mais ils sont capables à un moment de reconnaître les avantages et les privilèges que ça leur a accordés, en fait. De pouvoir le faire et donc de pouvoir donner la main et à un moment laisser la place à d'autres. Voilà. Quand un Orelsan, il vient dire « Ok, j'ai une victoire de la musique, mais ça devrait revenir à Damso et pas à moi », en fait, bah, l'air de rien, c'est pas anodin pour moi de faire un truc comme ça. Quand Vald, il va faire des trucs sur 93 Empire avec Fianso et où il joue le rôle du maton dans le clip, c'est pas anodin non plus. Voilà. C'est des façons de venir questionner aussi ce système-là, à savoir que voilà, dans le rap, il y a des choses qui se disent, qui sont explicites, qui sont en fait des implicites de notre société. Et notamment ce racisme social. Et j'associe les deux exprès. C'est que, j'ai envie de dire, racisme et classisme, ça va ensemble aujourd'hui. Ça recouvre la même réalité. On ne peut pas les opposer. Ce n'est pas deux choses opposées, contrairement à ce que tous les débats qu'il y a actuellement. Voilà. Être contre le racisme, c'est aussi être anticapitaliste, finalement. Enfin, en tout cas, anti-domination sociale, d'une classe sociale et notamment de la bourgeoisie. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à la question du rap de Yankli, mais c'est que finalement, il faut à la fois pouvoir l'autoriser tout en le questionnant, en fait. Sur est-ce qu'il ne vient pas à un moment faire du remplacement aussi pour lisser quelque chose empêcher ceux qui, en fait, devraient légitimement avoir les postes de pouvoir là-dessus d'y accéder. Voilà.
Mais sans que ce soit forcément un phénomène conscient, en tout cas, c'est sûr que je parlais de Freeze Corleone. Après, ce n'est pas le plus street de tous les rappeurs. Mais par exemple, le succès d'un rappeur comme ça, avec un propos archi sans concession, genre... c'est zéro lissage, quoi, avec qui tape top 1 tendance dès qu'il va chez Colors, des trucs comme ça. Et le projet Bluebeam qui remonte, je crois il est remonté 25 fois cette année dans le top 50 Spotify. C'est-à-dire, les gens, juste, ils l'écoutent, quoi. Enfin, c'est pas une sortie, quoi. C'est...
Mais ça va avec l'air du temps aussi, parce que finalement, Despo ou Freeze, enfin, tu vois, il y a des choses qui vont aussi frôler, sur la, qui surfent sur la question de « on vous ment, on nous dit pas tout », enfin, la question du complot, quand même, qui est très présente.
Ouais,
et qui,
sûr.
Aujourd'hui, sont des choses qui sont, justement, par rapport à la question du vrai et de l'image,
ouais.
Je veux dire, tout est faux et rien n'est vrai, en fait. Enfin, c'est-à-dire...
Ouais.
On ne sait pas, on ne sait jamais qui est derrière un compte, on ne sait jamais qui c'est qui dit, on ne sait jamais qui c'est qui écrit. Je vais même te dire, ce n'est pas forcément les rappeurs que tu entends qui écrivent leurs propres textes aujourd'hui.
Ah
oui,
non, c'est sûr.
Donc
c'est sûr.
En termes d'authenticité, ça, pour le coup, il y a un truc qui vient questionner, ça, pour le coup, dans le rapport au rap. Normalement, tu écris ton texte et tu poses ton propre texte.
Voilà. À l'ancienne.
Mais déjà, pour nous, à l'ancienne, déjà arriver et dire sur son téléphone, ça nous posait question. Hein. Maintenant, c'est devenu un acquis. Tout le monde vient dans le cercle avec son téléphone. Enfin, ou à Skyrock, enfin voilà. Voilà, c'est des choses, c'est des réalités, et qu'on fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans. Enfin, la question de l'authenticité, elle s'est forcément déplacée.
Ah bah, dans la même lignée, moi j'ai toujours été halluciné du comment on traite les ghostwriters dans le rap, c'est-à-dire les gens qui écrivent pour d'autres, et ça existe depuis très très longtemps, et jamais c'est assumé, jamais on peut dire bah oui, j'ai des mecs qui m'écrivent, qui m'aident à écrire. Dans le rap, il faut écrire soi-même, ça doit venir de soi, c'est un truc extrêmement important. On peut pas être juste un interprète.
Bah, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi la spécificité qui fait penser aussi dans l'art? Bah, ça en fait partie pour moi. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est vrai que la musique est très décomposée. Il y a les arrangeurs, les compositeurs, les interprètes. Enfin, alors que c'est vrai que, voilà, dans le rap, et de plus en plus d'ailleurs, ils sont amenés à être hyper autonomes et hyper dans la débrouillardise par rapport à ça aussi, et de savoir écrire. Maintenant, c'est vrai que l'existence des ghostwriters, ce qui est assez marrant, c'est souvent pour faire des tubes. en fait. Enfin, il y a souvent un truc comme ça, cette idée que si c'est pas moi qui écris, ça va être forcément mieux, ou c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des tubes. Enfin, voilà.
Ouais.
Donc, des représentations comme ça, un petit peu derrière, ou comme les top liners. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont sortis, d'ailleurs, qui créent aussi d'ailleurs, des gros litiges de à qui ça appartient. Enfin, bon, enfin voilà, la question de la propriété intellectuelle, enfin, du droit d'auteur. En fait, voilà, ce sont des choses, mais qui, quand elles n'existaient pas, ces questions-là, j'ai envie de te dire, avec personne ne gagnait de droit d'auteur et de points SACEM, on ne se la posait pas. Hein. Du tout de la même manière aussi.
Ouais, ouais.
Après, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient avec l'industrie, ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est pas le rap. Excuse-moi, je te coupe, mais enfin, c'est pas le rap, en fait. Que c'est pas dans l'identité du rappeur. Il y a quelque chose de j'écris mon propre texte. C'est pour ça qu'il y a autant d'ateliers d'écriture, qu'il y a autant de travail autour de l'écriture de chansons, de machin. Quelque chose qui doit venir de soi. Comme si l'écriture, c'était le stylo, c'était un peu l'extension du rappeur, un peu comme le mic. En fait, il y a quelque chose qui s'apparente entre le stylo et le mic.
Il y a une notion de mérite aussi là-dedans, quand même.
Ouais, d'effort. Mais presque scolaire, en fait. Enfin, il y a un truc, voilà. Il y avait quelque chose, quand même, de très élitiste intellectuellement dans le rap aussi, hein, qui, pour le coup, peut se perdre un petit peu, justement. Mais qui se perd, en fait, dans les enjeux plutôt industriels, parce qu'en fait, tu le retrouves quand même vachement dans l'indé. Le nombre de gars qui font des multisyllabiques et pour qui c'est une marque de fabrique. Enfin, c'est pas anodin non plus. De toute façon, ce rapport à l'écrit, quoi. Et en même temps, parfois, quitte à y aller trop loin dans l'écrit aussi, parce que tu vois, quand je te disais tout à l'heure, un flow, un beat, un texte. Parfois, on axe trop sur le texte aussi du côté du rap. Mais c'est pas du slam. Non plus. Oui. Donc, il y a un moment où il faut aussi que le texte, il serve le beat et le flow. Et inversement. Enfin, tu vois. Donc, parfois, d'avoir un ghostwriter, ça peut peut-être te permettre de te concentrer sur ton flow et ton beat. Éventuellement, pour certains. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas dans la représentation qu'on a, j'ai envie de dire, du rappeur. Alors qu'un interprète de variété, que Zazie, enfin, non, mauvais exemple, que Louane, elle écrive pas ses chansons, on s'en fout.
Non, mais moi, qu'on fasse appel à quelqu'un pour faire un bon morceau, au contraire, moi, je dis, mais parfait, entoure-toi. Le problème, c'est que pendant très longtemps, ça n'a pas été assumé. C'est ça qui était problématique.
Bah non.
Quoi.
Mais pareil, on était dans cette représentation du self-made man aussi, hein, dans le côté du rappeur. Donc, celui qui s'est fait tout seul, mais qui fait tout seul aussi.
Ouais.
Avec le système D qu'il pouvait avoir. Hein.
J'ai l'impression que c'est un truc qui s'étend à la musique en général, mais que de toute façon, aujourd'hui, sans forcément qu'on axe le mérite là-dessus, mais que en fait ceux qui seront amenés à percer, vu que en fait on doit produire énormément, comme tu disais tout à l'heure, Salman, genre le type de Spotify a dit que c'était genre un morceau par semaine. Tu dois tellement être en flux tendu que en fait t'as pas le temps de dire à un type, enfin, ou alors tu montes vraiment une industrie et tu dis j'ai lui, vous m'envoyez un texte et puis après moi je fais un machin, etc. Mais sinon, pour moi, ceux qui sont amenés à percer, c'est ceux qui savent tout gérer, ceux qui savent faire tout seul et vite, quoi. Donc genre, tu fais ton beat, t'écris ton texte, t'enregistres dans la foulée, tu fais ton petit clip, boum, tu balances, c'est fait. Que j'ai l'impression que en gros, il y a deux écoles qui vont se diviser. Donc t'as ceux qui vont prendre le temps et qui seront respectés pour ça, et PNL, pour moi, ils font partie de ce truc-là. C'est genre, ils ont le droit de prendre leur temps, de disparaître, etc. Et puis, il y a ceux qui seront obligés parce que peut-être ils ont moins d'exposition. Enfin, après, PNL, ils ont eu leur exposition parce qu'ils ont fait des trucs. Mais en tout cas, pendant un premier temps, j'ai l'impression que si t'es un artiste qui démarre, faut être productif, et que ceux qui seront le plus adaptés à ce nouveau système, c'est les gens qui savent faire un peu de tout. Peut-être pas extraordinairement bien, mais qui savent se débrouiller dans tous les champs, quoi. Soit la communication,
ce qui est dommage, c'est qu'on perd aussi la manière de la spécialisation dans une discipline là-dedans aussi parfois, et que quelque part à vouloir être partout, on est nulle part. C'est Montaigne qui disait ça, c'est d'être partout que de vouloir être, ce n'est être nulle part que de vouloir être partout. Mais après, ça me surprend toujours aussi parce qu'en fait, on est dans un champ lexical qui est celui de l'industrie, de la performance, de l'entrepreneuriat, et en fait pas de l'art en fait.
Ouais.
Il y a un moment pour être un artiste, t'es pas un artisan. C'est pas la même chose. La productivité, tout ça, c'est quand même du langage qui est du langage de l'industrie, quoi, en fait, à la base. Mais au sens industriel du terme, pas au sens kiff.
Je suis d'accord avec toi. Pardon, je laisse terminer, après je réagirai, vas-y.
Mais c'est pour ça que, en fait, pour moi, il y a une distinction. Enfin, la différence entre l'artisan et l'artiste, c'est que l'artisan, il reproduit une méthode efficace qui fonctionne, en fait, et qu'il connaît et qu'il maîtrise de A à Z. Mais il va rien inventer. En fait, justement, l'artiste va inventer. Je ne crois pas qu'on puisse inventer toutes les semaines. Franchement, on ne va pas se mentir.
Ouais.
Non.
On peut reproduire des choses, on peut tester des choses.
Une fois dans une vie, c'est bien déjà.
C'est déjà pas mal. Et je veux dire, même pour inventer, il faut être un peu dans une forme de non-pression aussi. Enfin, il y a quelque... Et à la fois de pression, de précarité, et en même temps de non-pression, j'ai envie de te dire, d'enjeu, parce qu'il ne faut pas trop savoir où tu vas. Enfin, ouais. Donc,
il faut
énormément de liberté, beaucoup de contraintes, mais voilà. Vas-y,
j'ai l'impression que ce rapport à l'industrie, il est né aussi du fait que il y a plein de jeunes qui se sont dit, bah, y a des billets là-dedans, en fait, donc il y a moyen d'aller les faire. Donc,
bien sûr,
j'y vois ça comme... Oui, voilà, c'est ça. J'y vois ça comme une... Enfin, je veux pas être... Même si... Enfin, en fait, j'ai pu être dans cette posture. C'est aussi pour ça que maintenant, je dis un peu l'inverse. C'est que j'ai été dans cette posture de l'artiste, opposition à l'artisan, etc. Et que, enfin, moi, je mettais l'artiste sur un piédestal. Et j'ai l'impression, en fait, que maintenant, j'en suis quand même assez largement revenu. Et que je me dis juste, ben... En fait, il y a plein de manières de faire de la musique. Et de toute façon, ceux qui veulent un certain type de musique, ceux qui veulent un artiste, trouveront des artistes. Il y aura toujours des artistes. Mais c'est le droit aussi des petits jeunes ou des moins jeunes de se dire, ben, vas-y, lui, il prend son billet en faisant un morceau par semaine, ben, vas-y, je vais faire pareil. Enfin, en tout cas, c'est une économie comme une autre, en même temps d'être un truc qui potentiellement peut être de l'art et incroyable, etc. Mais il y a de la musique qu'on écoute juste pour s'ambiancer, il y a de la musique qu'on écoute pour réfléchir, il y a de la musique qu'on écoute pour être chamboulé, enfin, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Je ne ferai pas de hiérarchie entre les deux, quoi.
Non, il n'y a pas de hiérarchie, j'ai envie de te dire, entre les deux. Tu peux être d'ailleurs hyper productif tout en étant artistique. Hein. Un mec comme Jul ou un autre mec comme Swiftgad qui est hyper productif aussi, qui peut te sortir 4 albums en une année, enfin, tu vois, et des albums de 15-16 titres, quoi, tu vois. C'est pas des trucs... c'est aussi des choses... C'est des gens qui peuvent quand même avoir une vraie dimension artistique à partir du moment où... En fait, c'est pas la question de la productivité, en fait. C'est la question de rentrer dans des schèmes. Tu vois ce que je veux dire ? Qui va faire pour moi la différence ? C'est pourquoi tu fais les choses. À partir du moment où tu fais les choses, parce que toi, t'es mû par une inspiration, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle te vienne, j'ai envie de te dire, que ce soit l'argent ou autre chose, enfin, viens maman, si t'es inspiré, vas-y, go, mon gars, en fait. Tu peux créer ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à la base, il faut de l'inspiration. Mais si tu vas sans aucune inspiration, tu sais que tu vas pas créer. C'est tout, en fait.
Là, je suis d'accord 100% là-dessus.
Voilà, c'est...
Après, la logique industrielle, elle naît avec la musique enregistrée. Moi, je peux pas reprocher aux artistes de se dire, bah, y a un modèle qui permet à partir des enregistrements de générer de quoi vivre. Et c'est un outil génial, fondamentalement, de pouvoir vivre de tout ça.
Après, mais comme ça YouTube, être... comme
exactement. Plein de choses, oui. Après, ça ne doit pas être l'unique aspect, c'est-à-dire qu'il y a la musique live en parallèle, qui elle n'est pas du tout dans la même temporalité, par exemple, qui peut être très bien beaucoup plus rare, comme aussi beaucoup plus courante. On peut aller tous les soirs dans des open mic, des trucs comme ça. Et fondamentalement, moi, j'ai toujours du mal quand on dit que la démarche industrielle va à l'encontre de la démarche artistique, puisque pour moi, en fait, elles peuvent parfaitement cohabiter, s'entremêler. Alors... Elles te permettent de bouffer éventuellement pour faire d'autres trucs plus artistes, dits plus artistiques.
Quand je dis industriel, c'est pas la démarche industrielle, c'est pas la démarche électronique. Enfin, tu vois, par exemple, c'est pas le live n'est pas j'ai envie de dire le bio de la musique. Enfin, tu vois, et de la musicalité. C'est plus quand je parle d'industrialisation, c'est plutôt la dimension de performance, la dimension de productivité. Enfin, tu vois, c'est le langage qu'on utilise en fait, qui est un langage qui est pas n'importe quel langage.
Qui est langage du professionnel, souvent dans notre société,
Du tertiaire ou de l'industriel. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est pas complètement anodin. Enfin, on est sur un langage de performance.
Mais c'est vrai qu'il y a un rapport.
Moi qui viens du social ou du médico-social, c'est pas mon langage.
Oui, par exemple. Mais encore une fois, ce qui est intéressant.
C'est...
Pardon, vas-y, oui.
Ouais, mais vas-y, finis.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, à chaque fois, on a des réflexions autour du rap et à chaque fois, on peut les ramener à des choses beaucoup plus générales dans nos sociétés. Là, c'est l'exemple typique vient d'être donné. Bref, voilà, c'était juste...
Ah oui, tu justifies toute ma démarche. Et qu'il y a un moment où, à travers le rap, en fait, à travers l'objet du rap, ce qui était ta question de départ, qui est en fait, pour moi, même pas un objet d'étude, c'est un accompagnateur de vie. Tu vois, enfin, j'ai envie de te dire, c'est un way of life autant que la philo, si tu regardes bien. En fait, les deux, pour moi, sont pas des trucs déconnectés, c'est pas des matières, c'est pas des disciplines comme ça que je prends et que je me dis, oh tiens, ça m'intéresse. Enfin, tu vois, c'est des trucs que, voilà, qu'il y a un moment, tu vis, mais qui viennent surtout... te révéler, moi, c'est les deux pans qui me permettent de pouvoir penser le monde, en fait. C'est que d'un côté, il y a le rap avec tous ses développements aussi, et tous les trucs que même j'aime pas, c'est pas grave. Enfin, ça me fait penser le monde, moi. Tous les philosophes que j'aime pas, c'est ceux qui m'ont permis à un moment de pouvoir me construire aussi, en fait. Parce que c'est contre eux que tu vas essayer de contre-argumenter. Voilà, aussi, et d'essayer de comprendre et de pouvoir proposer aussi d'autres choses. Et j'ai envie de dire, même dans le rap, même s'il n'y a pas forcément toute la musique que moi j'écoute, ça n'empêche qu'ils participent de quelque chose, ils racontent quelque chose, et même là-dedans, moi, ils viennent m'interpeller aussi. Ils viennent me donner à penser. Moi, PNL me donne à penser aujourd'hui. Beaucoup plus que d'autres dont je tairai le nom. Enfin, voilà, parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Bon, que j'ai pas envie en plus que. Enfin, moi, je suis pas là pour donner mon goût et ma subjectivité, en fait. Je suis là pour dire, voilà, qu'est-ce que ça me raconte. Je peux autant citer un Kobalade qu'un Kerry James, qu'un Booba, qu'un.
Mais du coup, ce qui est intéressant, parce que tu citais, à l'inverse, tu citais PNL que t'aimais bien, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi eux en particulier, dans ce paysage-là, pourquoi eux t'intéressent plus que. Alors, que les autres.
PNL, il a fallu du temps parce que moi, au démarrage, j'ai vraiment pas accroché. Moi, j'ai fait partie de la génération qui s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique d'ascenseur, quoi. Vraiment, au sens fort du terme, musique d'ascenseur. Ouais. Il n'y a plus de paroles, on est que sur des onomatopées. Enfin, là, pour le coup, difficile. Et puis, même en termes de beat, elle va le trouver au démarrage, quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas du tout mes repères. C'est vrai. Ouais. Donc, déjà, moi, il a fallu, comme tout le monde, quelque part, que l'environnement sonore me permette de pouvoir accéder à PNL. Parce qu'il y a une éducation, en fait, hein, musicale, qu'on n'imagine pas. Il y a un moment où tu n'arrives pas au rap comme ça quand tu viens du classique. C'est pour ça que je trouvais très bien Section d'Assaut pour initier les petits. Enfin, aussi, ou Soprano, ou Maître Gims. Voilà, moi, je trouve ça très bien, en fait, pour initier l'oreille, en fait. Parce que tu ne rentres pas dans ces sonorités pas comme ça facilement, en fait. La preuve en a été ma génération. La génération d'avant, ils nous disaient « Mais c'est de la merde, votre truc !»
On leur disait toutes les générations, quoi.
Voilà. Ouais, mais il n'y avait pas d'instrument. On était que sur un bim, bim, bim. C'était quand même chelou pour ceux qui venaient du rock ou du punk. Ouais. Enfin, c'était quand même juste avant. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça au démarrage. Là, il va falloir m'aider à revenir au démarrage.
On parlait de PNL et de pourquoi, oui, voilà, pourquoi eux en particulier.
Et donc, voilà, PNL, moi, au démarrage, il a fallu que je sois un peu. J'ai un environnement sonore qui me favorise ça. Et je pense que le fait d'avoir une ado m'a aidé. D'entendre, voilà, un peu, bah, ça m'a forcément un peu aidé. Et puis, il y a eu surtout l'album de Frères, enfin, à l'ammoniaque, où là, pour moi, il y a eu plus de textes. Donc, moi, c'est vrai que, voilà, ils ont renoué un peu avec le texte. Donc, moi, j'ai pu m'y retrouver déjà un peu plus. Mmh. J'ai enfin compris le truc, parce que moi, je fais partie d'une génération, on regarde pas les clips en même temps qu'on écoute. Je fais partie d'une génération qui écoute la musique, qui la regarde pas. Mmh. Donc, PNL, j'étais passée à côté. Parce qu'il faut les deux, en fait. Ouais. C'est aussi une façon de consommer la musique, en regardant le clip. Et en regardant, voilà, ODD, le clip, le machin, là, j'ai fait « Ah ouais, d'accord, il y a un truc ». Et après, j'ai écouté tout l'album et là, j'ai fait « Ok, il y a un truc vraiment intéressant. Je vois l'univers que ça propose, je vois qu'il y a quelque chose. » Mais aujourd'hui encore, je peux pas écouter. Enfin, je fais pas partie des aficionados. Je fais pas partie. Donc, je suis pas une fan de Dans la Légende, moi. Tu vois, par exemple. Mmh. Ouais. Les vrais fans de PNL, ils kiffent Dans la Légende. C'est là qu'on voit que je suis pas une vraie fan. Voilà.
Ouais, moi, je me retrouve 100% dans ce que tu dis. Pour moi, ouais, c'est deux frères. Je me suis pris ODD. Et après, c'est parti. Genre là, j'ai digué tout l'album et l'album, je le trouve incroyable.
On était prêts. On était prêts. Il y avait quelque chose qui était prêt dans l'environnement. Avant, ça n'aurait pas été possible. Mmh. Voilà. Mais après, moi, je crois aussi beaucoup au troisième album. Valve, c'est pareil. C'est Le Monde est Cruel que j'ai bien aimé. Enfin, il y a un truc.
Mais là, du coup, on parle de forme. Enfin, en tout cas, là, on parlait un peu de la forme avec PNL. Mais du coup, sur le fond, enfin, moi, je pensais que du coup, ce qui t'intéresserait chez PNL, par exemple, ce serait. Un propos qui les différencie des autres que pas tu trouves pas ailleurs.
Non, pas plus que ça, en fait. On va pas se mentir. Hein.
C'est la forme.
Okay. Oui, c'est plus la forme. Et pour le coup, non. Ce qui m'intéresse intellectuellement chez PNL, c'est le coup d'État systémique qu'ils ont fait, en fait. Enfin, le coup d'État, qui est pas un coup d'État.
Ah ouais, les deux rebeux sur la Tour Eiffel, c'est incroyable.
Le coup de canif dans le système qu'ils ont mis, quoi. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Et là, ils ont tout mon respect en termes de hip-hop. C'est-à-dire système D, débrouillardise, renverser, être là où on t'attend pas, enfin tout parfait quoi. Enfin voilà, là pour le coup, pour moi, ça c'est hip-hop. Et là, il m'intéresse énormément. Dans leur discours, on est sur quelque chose d'assez dépressif quand même, enfin d'assez. Voilà, moi j'y entends des choses où j'ai plutôt envie de leur dire allez voir un psy, les gars, parce qu'avec le père comme le vôtre, c'est pas facile quand même, tu vois. Mais bon, voilà, on n'a pas envie de leur dire non plus parce qu'ils font leur vie, mais c'est. Non, il y a des trucs intéressants, mais non, c'est pas. Ils vont pas. Ils m'ont pas attrapé par une thématique spécifique.
Qui dans le rap t'a mis un petit peu, peut-être pas une gifle, mais ou, si c'est une gifle, j'imagine que c'était quand t'étais plus jeune, mais en tout cas des gens qui t'ont intéressé philosophiquement.
Ah, récemment, bah, celui qui m'a redonné une vraie envie de penser, c'est Damso, hein, pour le coup. Okay. Vraiment, qui m'a vraiment inspiré à un truc où je me suis mise à écrire quoi, derrière. Quoi. Ça faisait longtemps. Non, sérieusement. C'est Amnésie, enfin c'est Autotune, enfin c'est des trucs où je me suis dit voilà, moi j'ai beaucoup travaillé dans les années 2000 sur la question à la fois de la perversion narcissique et des rapports masculins-féminins, la castration, tout ça, la misogynie.
Ah ouais,
là,
il est en plein dedans. Ouais.
Et voilà, bah, moi forcément, enfin, ça faisait 15 ans que j'attendais en fait un homme qui parle du virilisme et de ce que ça peut lui faire et de comment ça peut rendre prédateur, en gros. Voilà. Ouais. En fait. Et que c'est une souffrance en fait pour le masculin. Voilà, moi, en tant que femme, j'avais beau le dire, je suis un peu limitée quand même. Donc, j'avais besoin d'un gars pour me dire ça, en fait. Enfin, voilà. Et bah, j'ai trouvé ça dans le Peura et chez Damso. Et après, voilà. Donc, lui, c'est quelqu'un qui m'a ouvert quelque chose. Isha aussi. Alors, c'est des Belges, quand même beaucoup, moi, j'avoue. Isha est aussi quelqu'un
Belge que est fragile.
Hyper... Non, le Belge,
Belge
est
doux,
profond.
Le Belge est tendre.
Moi, je dirais le Belge est profond, là, pour le coup.
Oui, mais justement.
Isha aussi. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est évidemment ironique ce que je dis. C'est que t'es considéré
le Belge
comme.
Fragile,
t'es, et puis surtout, c'était considéré comme de la fragilité, tout ça, de s'exprimer sur sa sensibilité, des failles. Ça,
ouais,
ça...
Enfin, tu peux pas dire que Damso ou Isha, c'est des gars qui incarnent la fragilité, quoi.
Ouais, non, voilà.
C'est
non,
pas du tout l'image qu'il aurait associée, justement.
Sûr.
C'est ça,
c'est justement ça qui est fort. Ouais, voilà, voilà. Ça, ce que j'allais dire, c'est exactement ce qui est fort chez eux, c'est d'arriver à incarner, enfin, en fait, ils font le pont, quoi. Genre, ils sont suffisamment dans les codes de la virilité pour pouvoir en parler. Ça, c'est génial, parce que quand c'est un type comme, j'ai oublié comment il s'appelle, mais tout le monde a dit que c'était un rappeur, et il a une coupe au bol, il est batou, je me rappelle
plus. Tout le monde a dit que c'était un rappeur.
Ouais, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait une espèce de polémique où tout le monde disait, c'est pas un rappeur, c'est un rappeur. Je me rappelle que Mehdi Maizy avait dit qu'il considère, ou un gars chez Mehdi Maizy avait dit, je considère pas que c'est du rap, et pourtant les Inrocs le vendent comme un rappeur. Mais je sais pas, c'était un Babtou avec une coupe au bol, LGBT.
J'ai oublié son nom.
C'était pas un mec qui était passé dans le quotidien, c'était pas suite à ça le truc. Non, c'était pas.
Eddy de Préto.
Voilà. Eddy de Préto, c'est beaucoup plus compliqué, même si lui, il peut. Enfin, il va poser ces questions-là. Mais ce sera beaucoup plus difficile pour le milieu rap, on va dire, de l'entendre. Parce que ça viendra d'un
bas
tout fragile.
Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a un rappeur qui s'appelle BFG, qui, voilà, qui est affiché au mot, d'ailleurs, mais qui ne joue pas que là-dessus du tout, et qui a d'ailleurs des clips vachement intéressants, et qui. Ouais. Travaille beaucoup cette question-là, qui n'est pas du tout dans quelque chose d'efféminé, et qui pourtant assume. C'est vachement intéressant. C'est un rappeur français que je vous invite à aller regarder, parce que c'est vachement intéressant ce qu'il fait.
Non, mais je renie pas du tout l'intérêt d'Eddy de Préto, ce que je veux dire. Ouais, vas-y.
Oui, mais au-delà de non, parce que justement, là, c'est pas du Eddy de Préto. On n'est pas du tout dans le même, dans le même univers, mais pas du tout. Ouais. On est dans un univers beaucoup plus street, justement. Ouais. C'est ça qui est intéressant, justement. Parce que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que le gars soit, j'ai envie de dire, je vais pousser les mots, hein, mais pas dans ce qu'on appelle caricaturellement la fragilité blanche, quoi. Enfin, c'est pas ça l'enjeu, en fait. L'enjeu, c'est surtout de montrer que, voilà, il y a des hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur histoire aussi à un moment, et même des hommes qui font du rap, qui peuvent questionner la question de la virilité et du virilisme surtout, en fait. Dans un espace où la question de la virilité a toujours été un peu première, sans forcément d'ailleurs être sexiste, attention, mais où la question de la virilité, c'est-à-dire de se présenter comme étant un homme fort, fait tout seul, qui ne pleure pas, qui tient, ça a été longtemps quand même une partenaire du rap français. Donc moi, ça, je trouve ça intéressant, en fait,
c'est
faire évoluer la figure du masculin, en fait. Pour moi, à travers le rap, on peut faire évoluer la figure du masculin et des gens comme Damso ou Isha le font, et le font très bien.
Et même PNL, dans une certaine mesure, pour moi, il y a du spleen dans tout ça qui fait que ça nuance beaucoup le propos, genre nous, on deal, etc. Mais c'est... On sent que c'est vécu de manière complexe, au final.
C'est des gars qui parlent d'amour, ça, ouais. Alors ça, oui, de ce côté-là, il m'intéresse. Dans la poursuite, alors c'est pas les pionniers de ça, mais c'est quand même, ils m'intéressent, dans le sens où ils vont parler d'amour, de fraternité, ils n'ont pas peur de dire qu'ils pleurent dans les bras l'un de l'autre. Enfin, voilà, ça, c'est des choses, moi, que je trouve hyper intéressantes à proposer aux jeunes d'aujourd'hui, que ça soit garçon ou fille, en fait. Parce que
en
c'est
plus,
pas
là,
simplement...
on est sur des succès commerciaux assez incroyables, hein.
PNL Damso. Mais complètement. Et c'est ça que je trouve intéressant quand j'entends... Un Fianso et un Gims qui me font un panafricain, moi j'aime bien. Parce qu'enfin, t'as un arabe et un noir qui disent on est du même continent. Et c'est un truc qu'on ne dit pas assez, qu'on n'entend pas assez. Même si, voilà, c'est pas forcément des choses, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément sur des énormes messages de dénonciation comme on pouvait l'être avant et tout. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est bien joli de dénoncer, mais derrière, il se passe quoi? Le mec le plus engagé de tout le rap game, c'est Mokobé, hein, en fait. C'est le mec qui met pas en avant dans ses chansons ce qu'il fait, hein. Mais il est partout. Il n'y a pas une manif où il n'est pas là. Il n'y a pas un mouvement associatif où il n'est pas là.
Il est déter. Hein. C'est marrant parce que tu me fais, penser avec le morceau panafricain. Ça me fait penser, moi, au morceau de Despo et Nesby, Oeil au beurre noir, qui était un peu l'inverse, qui critiquait cette espèce de tendance à vouloir mettre les rebeux et les noirs dans le même panier, ou en tout cas, de faire comme si tout allait bien entre les communautés, alors qu'il y a du racisme entre les deux.
Ben justement, mais panafricain te dit la même chose en fait, au final. C'est que oui, si on est obligé de dire à un moment on fait partie du même continent, c'est que c'est pas une évidence pour tout le monde.
Oui, voilà.
C'est tout le problème, c'est que c'est pas une évidence pour tout le monde.
C'est marrant parce qu'on a, abordé plein de thématiques fondamentalement de société, même politique. Tu as parlé de classisme, de racisme, on a parlé de virilisme, de misogynie, etc. Est-ce que le rap est parfois à l'avant-garde de grandes thématiques comme celle-là? Est-ce qu'il est parfois à la traîne? Est-ce qu'il est juste le reflet d'un débat à un moment d'actualité dans notre société? Comment il se... Alors, j'imagine que ça varie en fonction des thématiques, etc. Mais comment il se positionne, tu vois, avant-garde, parfois à la traîne, ça dépend, c'est...
Moi, je dirais que souvent, il est à l'avant-garde quand même. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'observe, je trouve qu'il y a une vraie avant-garde. Tu vois, si je reprends par exemple l'exemple des violences policières, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout ce qui est en train de se dire, de s'exprimer, notamment depuis George Floyd, alors que bon, voilà, ben, c'est présent dans le rap français depuis 30 ans, quoi. Ouais. Quand même, ça fait 30 ans qu'il y a les mêmes termes.
Au point où ça nous a saoulé, quoi.
Ah, mais au point, alors, au point où ça vous a saoulé. Là, je dis vous parce qu'on n'est plus de la même génération, mais voilà, ça vous a saoulé parce qu'à force de l'entendre, mais en même temps, vous êtes bien forcé pour vous aujourd'hui de vous rendre compte que c'est toujours d'actualité.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce que c'est toujours d'actualité que les gens ont envie de l'entendre. En tout cas, je veux dire, il y a eu une espèce de courbe comme ça de l'intérêt où, genre, il y a un moment où, ouais, c'est trop vrai, et puis un moment, vas-y, ça saoule, on peut danser aussi. Et puis après,
oui,
on retourne là maintenant à une envie de revendication.
Il ne faut pas que The Message efface le having fun. On est bien d'accord. Mais tu peux concilier les deux, tu vois. C'est-à-dire, mais c'est surtout de se dire, là, ça fait 30 ans que le rap français le dit, mais à des moments différents, à des niveaux différents, avec des choses différentes. C'est sûr que moi, alors là, pour le coup, sur ce sujet-là, tiens, c'est intéressant, parce que moi, c'est vrai que je fais partie de la génération qui me dit, est-ce qu'on peut sauter comme ça sur Fuck le 17? Tu vois, enfin, non, mais vraiment, c'est-à-dire se poser, alors, sachant ce qui est en train de se passer dehors. Il y a des fois où, moi, ça peut me poser des questions, de me dire, est-ce qu'on peut s'enjailler sur le fait de se faire arrêter et de considérer que finalement, voilà. C'est on en a enfin alors qu'on a des frères qui sont en train de se faire taper dessus et enfin tu vois il y a un truc là il faut se poser les bonnes questions et être au bon endroit aussi à un moment tu vois aussi et mais ça n'empêche que ça vient surtout dire que il y a des rengaines qui sont présentes et qui n'ont pas évolué et heureusement qu'ils sont à l'avant-garde en fait sur certains trucs après oui les avant-gardes saoulent à un moment on n'a plus envie de t'entendre mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter de le dire. C'est tout le truc.
Non, voilà, c'est ça.
Voilà. Mais comme le mouvement féministe dans les années 80, tout le monde était « Oh, vas-y, vous saoulez, en fait, les féministes, après les années 70. » Enfin, 90, ouais, c'était un peu genre « Vas-y, retour en arrière. »
Quand t'écoutes du des proches, c'est assez clair.
Bah ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on dit « Oh, on redécouvre. » Bah non, en fait, ça fait des années. Enfin, et puis, c'est pas le même, et il a évolué. Mais en fait, il y a un moment, ça fait partie des trucs où on dit toujours les mêmes choses, mais en fait, elles sont plus ou moins audibles selon les moments. Donc, avant-garde, oui. Moi, je pense avant-garde aussi sur les questions de virilisme. Je pense que là, il y a un vrai truc qui se fait ouvert grâce aux Belges, pour le coup. Bah oui, mais franchement, moi, je trouve que la Belgique a ouvert des vraies portes, quoi. Parce que la Belgique se prend moins le chou. Enfin, les Belges, je crois qu'en Belgique, on se regarde moins à comment on est, qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on va être, comme en France, là. Vous voyez, enfin, un truc. Bel été, merci. Hein.
Après,
donc, il y a quelque chose qui est plus détendu.
Il y a le parce que là on parle surtout du rap français, il y a aussi le rap américain et moi je vois parfois que sur certaines scènes le rap français me paraît pas à l'avant-garde voire plutôt à la traîne. Typiquement, on parlait tout à l'heure de scènes LGBT, transidentitaires, etc. Aux États-Unis dans le rap, il y a des trucs ultra street, etc. Avec les codes ultra développés. En France, c'est quasi inexistant. Et pourtant, on peut pas dire que la question est prégnante dans notre et n'est pas prégnante dans notre société.
Alors oui, je pense qu'en France, mais c'est comme sur la question quand on parle rap féminin, tout ça, à la fin. Voilà, moi je suis toujours très mal à l'aise avec ces questions-là, parce que déjà, là pour le coup, c'est peut-être la seule phrase de Nekfeu que je garde, c'est j'aime bien le rap avec rien derrière. Voilà, mais c'est vrai que dans...
Il y a une richesse dans ces scènes.
Oui, mais alors, il y a une richesse dans ces scènes, en soi, mais ce qui me gêne, c'est de les catégoriser par une de nos dimensions. Moi, ça, c'est pour moi, la culture hip-hop, c'est justement de ne pas se définir, j'ai envie de dire, par des caractéristiques de naissance, et c'est l'émancipation de base. C'est sortir de ces caractéristiques.
C'est comme dire dans notre société que la couleur n'a pas d'importance, et donc on ne la voit même pas.
Mais, j'entends bien, c'est pour ça que je te dirais que oui, il faut... Voilà, j'entends le truc. Maintenant, ça n'empêche que si tu regardes bien, pour le coup, en plus, le rap français s'est quand même très vite constitué autour d'un truc où c'était les quartiers. Tu vois ? Donc, c'était pas on était moins dans la question communautaire. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça renvoie aussi à des fonctionnements sociétaux où les États-Unis fonctionnent sur le mode communautaire dès l'origine. Hein ? Donc, il a toujours fonctionné comme ça. La France, non. Là-dessus, non. Hein, ça n'empêche pas qu'il y a des effets, attention, hein, des deux côtés, mais moi, je ne suis pas forcément pour dire il faut faire du rap féminin ou il faut faire du rap LGBT. Ce que je voudrais, c'est que pour pouvoir être rappeur, on ne rentre plus dans des cases et dans des formes d'élitisme, en fait. Parce qu'en France, par contre, on est très très fort sur l'élitisme, à savoir créer des normes, en fait, et des systèmes d'excellence qui font que si on ne rentre pas là-dedans, on n'a pas droit de citer. Et là-dedans, en fait, il y a une forme d'élitisme du rap aussi, et de code, en fait, qui dit il faut que tu sois comme ci, comme ça pour faire du rap, en fait. Donc, mm-hmm. il faut que tu sois, faut que t'aies ta street cred, même si elle est fausse, faut que t'aies ton personnage. Il faut qu'il y ait un moment, tu surcaricatures le virilisme. Il faut qu'à un moment, tu surcaricatures ton rapport, j'ai envie de dire, aux autres, que tu sois dans, enfin, si t'es une meuf, il faut que tu rentres dans telle ou telle case. Enfin, on est dans cette représentation des cases, mais parce qu'à force de regarder les États-Unis, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent dans les industries musicales en France? Ils disent, non, une meuf, ça marche pas. Un LGBT, ça marchera pas en France. Mais ils ont même pas essayé, hein, en fait. Il dit juste, ça marche pas. Pourquoi? On sait pas, en fait. Et ça, c'est
mais le problème de l'industrie. Il y en a qui disent qu'on essayait. J'avais vu passer un truc qui disait un truc sur Aya Nakamura, ou je sais plus qui.
Non, enfin, Aya Nakamura, personne n'y croyait hein, quand même, hein, au démarrage.
Ouais, c'est ça, un type de chez Def Jam qui disait, ça marchera jamais.
Mais PNL, ils ont dit ça. PNL, ils pleurent. Ouais, voilà. Ils ont pleuré 2 ans après. Ils ont refusé PNL, ils se sont fait virer de toutes les maisons de disques.
Voilà.
Donc c'est pour dire que les maisons de disques à la française, en effet, l'entrepreneuriat est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en France, hein, on ne va pas se mentir, et donc l'esprit qui va avec aussi, à savoir je prends des risques. Mm. En France, on ne prend pas de risques. Donc tant qu'il n'y a pas des égéries LGBT, femmes, machin, type diam, enfin, voilà, qui vont sortir, eh ben, on n'y va pas, c'est tout. Mais moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on soit obligé de le mettre dans une case,
ouais.
En fait.
Après, j'apporterais juste une nuance à ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi les scènes underground, y compris aux États-Unis, c'est-à-dire que hors industrie, hors des gens qui disent « Ah non, je pense que
oui,
ça ne se voudra pas »,
il
y a aussi des trucs qui se développent et par les gens eux-mêmes, quoi, tu vois, qui disent « Bah nous, on veut être représentés, on va faire notre truc, quoi ». Et en France, bah, sur ces questions-là, par exemple, je ne la vois pas tant que ça, tu vois.
Bah moi, je trouve
qu'il y a
des FMC de plus en plus, il y a plein de nanas. Moi, je connais de plus en plus de nanas. Je vois dans les masterclass, dans les open mic, je vois de plus en plus de nanas. Je vois de plus en plus de LGBT, je vois des trans. Enfin, je vois vraiment mais des textes en français. Enfin, voilà, je te parle de BFG. Enfin, tu vois, mais il y en a plein,
en fait. C'est pas inexistant. C'est juste, je trouve, on parlait de avant-garde, parfois à la traîne. Je trouve que sur ces questions, par exemple, on a la traîne par rapport aux questions qui se posent dans notre société et par exemple aux États-Unis aussi, par exemple. Voilà.
Bah,
c'est-à-dire que
le rap
n'est pas toujours à l'avant-garde de tout, quoi, malheureusement.
Non, là-dessus, non. C'est vrai que t'as raison, parce qu'en plus, le rap, pour le coup, va être aussi dans les mêmes problématiques, j'ai envie de dire, que certaines. Enfin, va refléter aussi certaines problématiques qu'on va retrouver à d'autres endroits. Il y a aussi une difficulté à aborder ces questions. Mais tu sais, ces questions-là, ces questions d'ouverture intellectuelle, c'est toujours aussi un truc qu'on juge toujours une fois que nous, on les a acquises, en se disant pourquoi les autres ne l'ont pas.
Bien sûr.
Mais on ne se pose jamais la question de savoir comment on en est arrivé là. Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec des... Donc, quand je vais faire des formations partout, je me confronte régulièrement au racisme réel hein, des gens. Enfin, voilà, il y a un moment... Et puis, il y a un moment, le maître au travail, ce n'est pas leur dire c'est mal, en fait. Enfin, le maître au travail, c'est aussi essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça marche, comment ça fonctionne, sur quelle représentation ça fonctionne. Et il y a des choses qui touchent à des choses inconscientes qui ne sont pas simples. Et la question de la sexualité, ça renvoie quand même à l'intime de chacun, à des choses où beaucoup de gens ne sont encore pas à l'aise. Donc, la question de l'homophobie ou de la transphobie ou tout ça, c'est quelque part aussi quelque chose dans notre société. C'est très récent, ces questions-là aussi, si on le reprend à l'échelle de l'humanité. Déjà, la question du sexisme, ça fait 50 ans qu'on essaye de dire allô et on n'en est toujours pas sorti. Et il va encore falloir un siècle. Moi, je ne crois pas qu'on en sorte en 10 ans par une loi ou un truc. Il va falloir au moins un siècle. Voilà, la question du racisme, pareil. Ça avance un peu, mais pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas assez. Mais ce qui se dit aujourd'hui, c'est pas là. Ça commence à avancer, mais ça va prendre du temps. Et donc, encore plus pour la question qui tourne autour de la question des sexualités et des sexualités, j'ai envie de dire, alternatives. Enfin, c'est forcément, ça vient, on touche à des trucs anthropologiques aussi, qui ne sont pas si simples pour les gens. C'est pas simplement une question d'ouverture intellectuelle de c'est bien, c'est mal et c'est moral. Pour que tout ça bouge, c'est des mouvements de société, ça prend des générations. Voilà. Moi, je vois la génération de ma fille beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là que la mienne, déjà, et que celle de mes parents, et on avance. Voilà, ça avance, mais c'est pas gagné. Voilà, et donc c'est normal que dans le rap, il y ait encore aussi voilà, cette même évolution. C'est pas le petit milieu parisien. Voilà, c'est sûr que dans le rap d'un Orelsan ou d'un Nekfeu, ça va être beaucoup plus détendu, cette question-là, que dans le rap de Kobalade ou de Ornette la Frappe. Enfin, voilà, là aussi, ça renvoie des écoles. C'est pas les mêmes écoles, c'est pas les mêmes façons de penser, c'est pas les mêmes constructions.
Ouais,
ça veut pas dire qu'il y a un mieux ou un moins bien, c'est juste qu'il y a un moment où, par contre, en parlant, moi, je peux te dire que souvent, je discute beaucoup avec des rappeurs street, avec qui on a des vrais échanges de front sur ces questions-là.
Mmh.
Et ça bouge. Voilà. Dernier en date, on en a rigolé. C'est avec la crap, parce qu'on a beaucoup évoqué certaines questions. Là, sur son dernier titre, il évoque le fait que dans les programmes scolaires, on apprendrait aux enfants à avoir des relations sexuelles. Je lui ai dit, il va falloir qu'on se parle. Voilà. Un petit débat à 6h du mat est en prévision. Voilà. Mais Parce qu'il y a un moment, c'est aussi un moment comment on discute avec les gens, en fait. Et comme le rappeur, il va être avec ses tripes et avec ses représentations du moment, en fait. On ne travaille pas son texte avant. On ne lui dit pas, il n'a pas quelqu'un qui lui dit avant, non, tu ne dis pas ça à la télé, tu ne dis pas ça dans ton texte. Enfin, voilà. C'est d'ailleurs toute la difficulté, ils ne sont pas préparés. Il y a beaucoup de médiatraîneurs, voilà. Alors que dans la variété, beaucoup plus. Enfin, ils sont beaucoup plus préparés, ce n'est pas le même environnement social de départ non plus. Enfin, souvent, les passages scolaires, tout ça. Donc, il y a un moment où c'est de l'acquisition, c'est de l'apprentissage. Et ça se passe par le dialogue et c'est en discutant. Et en fait, voilà, j'ai envie de te dire, un rappeur était souvent un mec intelligent, quand même, à 99%, c'est quand même des gars intelligents, plutôt autodidactes, qui lisent, qui s'intéressent. Donc, il y a un moment, les échanges se font, ça avance, et puis on bouge, et puis voilà, c'est tout. Oui, j'aurais adoré, par exemple, que Medine, quand il a fait son texte sur Verlaine et Rimbaud, suite à Boubacaris, qu'ils disent la vraie nature de leur relation. Et dommage qu'ils s'arrêtent juste au clash entre eux et qu'ils disent pas pourquoi. Voilà, ils étaient juste amoureux, les gars. Quoi. Voilà.
Et puis parfois aussi, c'est. Moi, je trouve qu'on. Là, je me mets en dehors du rap. Je trouve qu'on a tendance à donner trop d'importance aux propos des artistes, des musiciens. Parfois, on tend des micros à des gens juste parce qu'ils sont musiciens et. Franchement, ils n'ont pas grand-chose à dire, comme la plupart des gens, en fait, les musiciens. Ils ne sont pas plus conscients de plein de choses, etc. Arrêtons d'idéaliser les artistes et les musiciens, quoi. Notamment sur des propos, qu'ils soient sociétaux, intellectuels, etc.
Et même quand ils peuvent être hyper visionnaires, ils le sont dans leur art, pas forcément par le discours, aussi. Et ça, c'est aussi un autre truc, c'est que tu peux être très, très bon dans ton art, mais après, dans le discours, tu vois, c'est autre chose, quand même. C'est vraiment deux niveaux différents. Donc, tu peux être même hyper visionnaire dans ce que tu développes, dans ce que tu proposes à voir, mais après, être incapable d'en parler.
Oui. Aussi. C'est-à-dire, c'est deux skills à part entière. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où ça ne suffit plus, en fait, d'être juste talentueux. Enfin, est-ce que ça a jamais suffi, tu vois? Parce que juste, en fait, de base, tu vas trouver d'autres gens qui ont d'autres sets de skills, etc., et des marketeurs qui vont t'aider à faire ton truc dans les maisons de disques. Mais là, maintenant, à l'heure de l'indépendance de l'extrême, enfin, en tout cas, de la scission entre les deux, où tu auras vraiment les beaux produits bien faits de maisons de disques qui sont étudiés et les gens qui émergent tout seuls, j'ai complètement perdu le début de ma phrase.
T'as vu l'effet que ça fait, t'as vu, hein?
Ouais, incroyable.
Heureusement qu'il y a de la coupe à la fin.
Peut-être que celle-là, on la gardera, elle est belle quand même.
Je disais quoi?
Mais on t'a perdu
Non, toi, tu disais quoi juste avant? Attends.
On disait que les musiciens, leurs propos, que c'était par leur art et c'était pas forcément dans le discours, etc., qu'ils les développaient.
Oui, et tu disais que... Non, je sais plus, putain.
C'était deux compétences différentes que de faire de l'art et de parler.
Ça peut être archi compliqué pour une personne, de réussir à vendre ce qu'elle fait, en fait, parce que ça reste quand même particulièrement à une époque où tous les gens deviennent de plus en plus aiguisés à l'art du buzz, de la communication, générer une communauté, fédérer une communauté, ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont pas ces skills-là à la base, tout talentueux qu'ils puissent être, quoi.
Et puis t'as raison, Salman, aussi, qu'il y a un moment où ce n'est qu'un artiste. Et on met parfois... Alors voilà, c'est tout l'aspect du fanatisme, justement, qu'on évoquait au tout début, là. Enfin, c'est cette idée que, justement, à travers le fanatisme, tu vas confondre, en fait... La création de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle te donne à donner, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle représente. Enfin, en fait, tout est mélangé, alors qu'en fait, c'est plein de facettes différentes et qu'on donne à voir et qu'on joue différemment. Donc, un artiste n'est qu'un artiste. Il y a un moment où ce qu'il pense n'est pas la vérité et il ne représente que lui-même.
Et même parfois.
Il n'est pas un exemple. Pas un modèle.
Parfois, d'ailleurs, ça peut être une forme de génie de leur part. Il y a des artistes qui arrivent à travers leur production à te faire espérer quelque chose d'eux. C'est-à-dire à entretenir un truc qui te paraît profond, complexe, etc. Puis en fait, quand le mec doit s'exprimer et parler de sa démarche ou ce qu'il cherchait à dire ou je ne sais quoi, tu dis « Ouais, bon, je m'attendais à... »
C'est marrant, ça
m'a touché d'une certaine manière. Le mec n'avait pas l'intention forcément de ça. Bon, mais tant mieux, c'est la beauté du truc.
Ouais, moi, je me rappelle d'un exemple très concret de Orelsan chez Ruquier où Suicide Social, on lui dit « Suicide Social, il est incroyable ce morceau, nanani », et il dit « Ouais, j'avais vu un film, La 25e heure, où un type faisait plus ou moins la même chose, et je me suis dit « Je vais faire un morceau comme ça ». Et toi, t'es là, et ça a l'air d'être un immense coup de gueule contre la société, assez personnel et tout. Mais Orelsan, je me pose beaucoup la question de ce truc de « Est-ce que, sur les plateaux de télé, il ferait pas juste semblant ?» Parce qu'il arrête pas de dire tout le temps, dès qu'il se retrouve un peu dans une sauce, « Ouais, c'est de la fiction, tu vois ?» Genre, j'écris des trucs et puis ça a l'air quand même très personnel. Et puis, ouais, c'est de la fiction. Donc, cette question-là, moi, elle m'intéresse aussi. Qu'est-ce qui... Enfin, après, est-ce que j'ai besoin que les gens soient vrais dans ce qu'ils disent? Non, pas forcément.
Mais c'est la 25e image, tu sais, c'est le texte de Ayam sur la compile de Line, c'est la 25e image, la réalité dépasse la fiction. Enfin, il y a un moment où, quand tu travailles sur l'artistique, t'es toujours à la jonction sur la brèche entre réalité et fiction, en fait. Il y a un moment où, quand tu te crées un personnage, et aujourd'hui, on est dans cette dimension de la création du personnage, mais c'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est que des exemples, c'est pas des modèles, parce que c'est pas, y a rien de vrai, en fait, derrière tout ça. Après, quand tu les rencontres dans la vraie vie, c'est souvent très, très éloigné de tout ça. Enfin, après, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais quand même, moi, je trouve qu'il y a toujours... Moi, j'ai toujours été très surprise de voir que finalement, en écoutant bien un artiste, alors quand je dis en écoutant bien un artiste, c'est-à-dire de l'écouter dans la profondeur de ce qu'il nous raconte, avec la musique, pas que le texte. Hein. C'est pas que ouais. du texte, ça. J'ai rarement été très surprise quand je les ai rencontrés en vrai après, en fait. L'écart est pas si énorme que ça. Celui qui va me paraître être petit con, ça se sent assez vite, en fait. Quand t'as une certaine habitude aussi du discours, de l'écoute de certains discours, tu vois, il y a un truc. Et c'est là où je pense que l'artiste, il donne à la fois de soi, mais en même temps, il faut jamais s'y réduire et toujours prendre en compte le fait que ce n'est qu'un artiste, ça reste un être humain là-dedans, quoi. C'est pas... Il devient génial, c'est une injonction paradoxale, quoi, en fait. Donc ça rend fou, en fait.
Oui, c'est pour ça qu'il le dit.
Bah oui, mais c'est pour ça qu'il y a des trucs chez Val qui peuvent être hyper intéressants, même avec un côté très déconnant, très l'air de rien, sans que ça soit très profond, en fait. T'as pas besoin d'être dans un... d'utiliser des mots compliqués, d'être dans un truc revendicateur, comme ça, tac, tu vois, pour dire des choses engagées et profondes, en fait.
C'est tout l'intérêt.
Ouais, je suis d'accord avec ça.
C'est tout l'intérêt de sa démarche pour moi à Val, et en même temps, les limites de sa démarche, parce que parfois... Tu te demandes où c'est qu'il se place. Est-ce que t'es dans le foutage de gueule, dans le propos, dans le... Bon, mais c'est ce qui le rend fascinant, d'une certaine manière.
Ouais, c'est ça.
Mais
moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas.
Et comme Orelsan, ça leur permet de jouer sur cette latitude, la petite marge de manœuvre, le petit flou qu'ils génèrent, quoi. Voilà.
Ouais, voilà.
Comme Damso et PNL dans leur silence, en fait. Et dans leur distance, c'est une façon aussi de jouer cette marge. C'est aussi comment chacun ensuite va se positionner entre le personnage public et le personnage privé. C'est pas forcément des choses très simples, surtout quand t'apprends ça très jeune, que surtout dans un monde où la question de l'apparence a pris quand même vachement d'importance, quand même, enfin de plus en plus, où l'image publique donne à voir plus ta vie que ce que t'es dans le privé, en fait. Les gens n'ont plus envie de te rencontrer dans le privé, dans le réel. Enfin, ton image publique leur suffit. C'est déjà très particulier. Enfin, voilà, donc forcément, les artistes, c'est pareil. Ils doivent jouer et travailler avec ça, maintenant.
Écoutez, je vous propose qu'on passe à une autre partie un peu de ce podcast. Jusque-là, on a beaucoup parlé des gens du rap, des rappeurs eux-mêmes, des thèmes qu'ils abordent, le rapport au texte, etc. Plein de choses comme ça. Mais on a assez peu parlé, en fait, de notre société, le regard qu'elle porte sur le rap, les auditeurs aussi, où on le voit quand même, c'est devenu un truc beaucoup plus grand public, et il y a un changement qui s'opère. Benjamin, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça, à la fois le regard... Globalement, il y a eu beaucoup de défiance, quand même, vis-à-vis de notre société, des médias, des politiques, etc., dans l'histoire du rap. C'est un rapport conflictuel, de manière générale. Est-ce que ça a changé? Est-ce que... Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça?
En même temps, c'est assez marrant parce que finalement, quand je t'écoute, je me dis, finalement, les reproches qu'on peut faire au rap, c'est tous les thèmes qu'on a abordés. Notamment le fait que le rap ne ferait pas assez de part belle aux femmes, aux LGBT, que ce serait donc un environnement sexiste, homophobe, raciste aussi, maintenant, on entend beaucoup, hein, aujourd'hui, justement, vis-à-vis des Blancs. Enfin, c'est un peu le débat qu'on a eu, hein, finalement, l'air de rien. Ils sont présents, même en nous-mêmes, j'ai envie de dire, les détracteurs du rap, en fait. Ils sont présents parce qu'ils sont encore hyper, hyper ancrés. Donc
le regard critique, c'est positif aussi.
Le regard critique est toujours positif. Il est même toujours positif parce qu'il vient signifier où est-ce qu'on peut continuer d'avancer et sur quoi, justement, j'ai envie de dire, quelle est la limite entre le possible et l'impossible, en fait. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, la dimension critique, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que, finalement, les travers, enfin tout ce qu'on va reprocher dans la société au rap, ce qu'on appelle le grand public va reprocher au rap, malgré tout, en fait, c'est les sujets qu'on aborde aussi dans le game, en fait. C'est des sujets qui divisent dans le game, j'ai envie de dire aussi. La question LGBT, homophobe, elle divise aussi dans le game. Est-ce qu'il faut faire des choses spécifiques, comme par exemple certains sites le font aujourd'hui. Hein. Je peux citer Madame Rap, par exemple, qui fait quand même quelque chose qui recense l'ensemble des rappeuses au féminin. Et en même temps, voilà, ça peut interroger aussi sur est-ce que ça suffit, parce que d'être une femme et de rapper, est-ce que ça suffit à être mise en avant ? Question aussi, est-ce que on est rappeur parce qu'on est noir ? Ben non, on fait pas du rap de noir. Tu vois, ça choquerait un peu, en fait, si on disait ça comme ça. Mais en même temps, on dit du rap de blanc. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de notre société aussi ? Qu'est-ce que ça vient raconter ? Donc, forcément, le rap pose ces questions-là depuis toujours, en fait. Parce que c'est des questions qui traversent notre société. Et moi, je crois que le rap ne fait que révéler les impensés de notre société, en fait. C'est-à-dire les questions qui vont se poser dans notre société, mais que on va préférer poser au sein du rap plutôt que de poser dans le reste de la société. La question de l'homophobie, par exemple, pour moi, est un très bon exemple. On est encore, ou la question du sexisme, d'ailleurs, qui, quelque part, vont quand même assez ensemble, enfin, assez dans les représentations, surtout quand on commence à questionner le virilisme, enfin, on voit qu'il y a quand même des liens entre les deux. Ben, c'est parce qu'en fait, notre société, qu'on le veuille ou non, on a beau avoir un discours d'ouverture, elle est encore homophobe et sexiste. C'est une réalité, en fait. Voilà, il y a un moment où, oui, c'est dangereux pour une femme de se trimballer dans le métro en mini-jupe à minuit. Enfin, c'est une réalité. On le déplore. Ça ne devrait plus exister, mais c'est une réalité. Et voilà, l'homophobie, aujourd'hui, elle peut tuer. Dans Paris, il y a des femmes qui se font agresser parce qu'elles s'embrassent. Il y a des hommes qui se font agresser parce qu'ils s'embrassent. Donc, c'est une réalité, ça, en fait, aujourd'hui. Mais c'est une réalité qui fait que ce n'est pas que dans le rap qu'elle existe. Bien. Elle existe dans tout le reste de la société. Et là, je prends plus des exemples parisiens, là où c'est le plus ouvert dans les esprits. Dans les représentations, hein. Là où on a accès au savoir, là où on a accès au musée, à la culture, justement, qui, quelque part, pourrait donner une impression, justement, d'ouverture. Même là, en fait, le sexisme et le racisme est encore présent. Je suis ravie qu'il y ait le Music Too qui arrive, qu'il y ait le MeToo. Enfin, tous ces enjeux, c'était hyper important de montrer que dans le milieu artistique, là où on croit qu'on est au-dessus de tout, ben non, là aussi, en fait, il y a plein d'enjeux sexistes, homophobes, pas que dans le rap. Mais on va focaliser sur le rap parce qu'en plus, il y a la dimension sociale qui vient dire... En plus, là, c'est pas nous, là, je vais le dire un peu, c'est pas nous les petits bourges parisiens, c'est eux, là, ces espèces de racailles des quartiers qui ont un problème avec les homosexuels. Voilà. Alors qu'on sait très bien que dans les hautes sphères, il y a un gros problème aussi là-dessus. Le nombre de gamins de bonne famille qui sont qui ne peuvent pas faire de coming out, sinon ils sont radiés à vie, enfin, et qu'il n'y a pas de retour possible, quoi. C'est eux qu'on envoie pour essayer de faire des destins de rééducation. Enfin, voilà. On le sait bien. Le sexisme aussi. On a passé des années à dire que c'était le musulman, la figure du musulman qui était la figure sexiste. Mais on parle jamais de ce qui se passe dans le 16e, des rapports de domination. Dans le couple, en fait, qui font qu'il y a un moment où il y a énormément de femmes qui sont dans des situations dramatiques, dans des milieux hyper aisés. C'est pas une question sociale, en fait. On a voulu en faire une question sociale et de le focaliser sur le rap, c'est une manière de dire, il y a pas de ça chez nous, en fait. Voilà. Et le rap a toujours fait office un peu de ce que j'appelle le point fixe, c'est-à-dire de ce qu'on ne veut pas voir chez soi et qui nous rassure de regarder à l'extérieur comme si ça nous appartenait pas, en fait.
Je trouve ça très pertinent parce que, justement, je pense qu'il faut pas tomber dans... Ce serait une erreur que de dire, dès qu'on a un discours critique vis-à-vis du rap, comme je pouvais l'avoir par exemple sur la scène LGBT. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas un discours critique sur le rap, parce qu'il y a cette scène aux États-Unis par exemple que j'aime beaucoup, et que je trouve en plus créative, super intéressante, ouais. Etc. Donc j'aimerais juste...
Et qui va arriver, certainement, hein, si c'est aux États-Unis, ça va pas tarder. Hein.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce besoin de regard critique, et en parallèle, par contre, il y a clairement l'observation que depuis quasi ses débuts, en tout cas assez rapidement avec l'émergence du rap en France, c'est marginalisé, on le traite de tous les maux, et évidemment tu as raison, parce qu'il y a un contexte social, sociétal, une population défavorisée, marginalisée, mise de côté, et que l'on pointe volontiers du doigt. Et ça, c'est indéniable, à mon sens. C'est indéniable.
Et qui se retrouve porteuse de tous les vices de la société.
Et même si elle peut les avoir, mais c'est les autres aussi, quoi. Donc,
mais oui, mais en fait, et même parfois, je vais même pousser un peu, elle les a pas plus que dans le reste de la société, juste elle l'écrit plus fort. Même chose non plus. Parfois, elle l'écrit plus fort parce qu'il n'y a pas le côté policé du discours.
Et puis surtout,
aussi.
Elle, on aura tendance à l'essentialiser, à mettre tout le monde dans le même paquet, alors que les autres, c'est moins le cas, par exemple.
Ah bah non, bien sûr. Mais non, c'est toujours chez le voisin. Si tu regardes bien, c'est toujours le voisin, le raciste, le sexiste, l'homophobe, c'est toujours le voisin. C'est jamais soi, en fait. Toujours l'autre. Voilà, quand on essaie de parler de racisme systémique, on te dit « Maintenant, il y a du racisme anti-blanc. » Quand même, il y a un truc où t'es là, genre « Mais on s'est pas compris, là. » Mais tu vois, c'est ce truc. Il y a toujours ce truc. Oui, mais toi aussi. Oui, mais... Enfin, tu vois. Non, mais c'est pas comme ça qu'on va penser les choses, en fait. Pour essayer de grandir. Ça, c'est un truc de cours d'école, normalement.
Et pourtant, aujourd'hui, le rap est devenu mainstream. Est-ce que ça a changé, justement, ça ? Est-ce que c'est toujours valable, notre discours, ou pas ?
Mais écoute, en fait, moi, là, je vais te dire, le rap est tellement devenu mainstream que ça amène à ce que Youssoupha soit obligé de faire des chansons pour dire que Marion Maréchal Le Pen les coune et que ça le saoule. Que d'ailleurs, Aurel San aussi a fait un petit tacle à Marion Maréchal Le Pen en lui disant « Vas-y, envoie un message pour moi à ton grand-père ». Enfin, mais voilà, ça pose... C'est vrai, mais moi, je comprends hein, que ça pose question. Hein. Enfin, mais de la même manière que moi, parfois, il m'arrive de regarder des vidéos de gens avec lesquels je suis foncièrement pas d'accord, mais pour savoir un peu ce qui se dit, en fait, et pour, je trouve que c'est important d'aller écouter aussi des discours qui sont radicalement à l'opposé des siens, et ben, il m'arrive d'écouter des discours parfois de virilistes d'extrême droite, hein, parce que quand même, ça va souvent ensemble, hein, quand même. Pas que, mais quand même, et qui vont me citer des rappeurs. Enfin, moi, ça me met parfois dans des états un peu bizarres. Il y a quand même Cro-Blanc qui existe, donc peu de gens parlent, heureusement d'ailleurs. Et ben, t'es pas obligé d'écouter, voilà. Mais c'est un rappeur d'extrême droite.
D'accord.
Voilà, ça existe. Il y a eu un espèce de festival de rap nazi à un moment, enfin en Allemagne qui s'est tenu. Enfin, des trucs.
mais ça prouve bien que c'est un succès.
C'est l'ouverture.
Exactement. C'est voilà. Ça l'ouverture.
Maintenant, après, il y a deux trois trucs qui doivent être interrogés.
J'ai écouté un truc de Cro-Blanc. C'était pas ouf.
On est pas obligé d'en parler mille ans et de citer son nom. Hein. C'est, voilà, on va pas lui faire de la pub non plus à Cro-Blanc, si tu permets.
On le coupera.
Mais voilà. Mais c'est pour dire que quelque part, il y a cette. Voilà, le rap est devenu tellement mainstream qu'il en est parfois tellement pas dangereux qu'il est même réapproprié par ceux, ou en tout cas qu'ils le citent. Et alors, c'est assez marrant parce que quand ils vont citer justement des rappeurs, ils vont citer du Medine, du Kerry James pour dire ça, c'est grave. Voilà. Ouais. Bizarrement, ils vont pas citer du ceux qui font plein de vues et plein de millions, quoi.
Je pensais passer à ma petite question signature. Allez, qui est comment tu vois la suite des choses, toi, Benjamin?
La suite du rap?
Que ce soit d'un point de vue esthétique ou philosophique, ou tu vois, choisis un axe. Et celui qui te paraît le plus intéressant?
Alors, moi, je fais partie des gens qui ne lisent pas dans l'avenir, donc je ne peux pas te dire ce que ça va devenir.
Non, mais imaginez, ça peut être intéressant.
Après, imaginez, moi, ce que j'aimerais, si je devais faire un vœu aussi, mais je crois que c'est quelque chose de possible. Je sens quand même que de plus en plus, voilà, le fond, la réflexion est là, en fait. Tu vois, t'évoquais Lélo, même dans un truc assez jeune, il y a des choses qui sont quand même, on sent qu'il y a quelque chose d'une envie, pas chez tout le monde, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, d'une envie, et qu'il y a quelque chose où je trouve que les rappeurs continuent d'ouvrir des portes, en fait, de s'autoriser des choses. Il y a quelque chose, voilà, à travers ce système de débrouille, il y a aussi, voilà, ce côté, la porte est fermée, je passe par la fenêtre, donc forcément, bah, il y a un moment, je suis obligée de détourner un peu le regard, de regarder autour et de pas rester avec des œillères. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant parce que c'est créatif. Voilà, pour moi, ça doit rester dynamique et créatif. J'ai envie de dire. Maintenant, vers où ça ira, j'en sais rien. Mais je pense que l'ouverture qui est faite sur la question de qu'est-ce que c'est que d'être homme aujourd'hui en 2020 et est-ce qu'on est obligé de se soumettre à des codes, c'est déjà une putain de belle question. Et qu'on ait réussi à la poser à travers le rap, je trouve ça grandiose, en fait. Mais vraiment grandiose parce que ça vient démontrer tout le contraire de tout ce qu'on a voulu lui faire dire toute sa vie, en fait.
Ah bah, je crois qu'on n'aura pas plus belle conclusion, hein.
Tout à fait.
Qu'est-ce que t'en penses, Alma?
Bah, écoute, ça me paraît très bien. Quand même, Benjamin, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
Eh bien, alors, sur Internet, j'ai un blog sur Mediapart, donc, qui s'appelle Essai de rapologie positive, qui est donc Benjamin Veil, mon prénom comme mon nom de famille, WWL, c'est le seul truc, sinon petit oiseau ne peut pas voler. Donc, pour me retrouver, c'est plus facile, même si des Benjamin, il n'y en a pas 36, j'avoue. Alors, j'ai aussi un livre qui va sortir, là, en fait, qui va sortir à la rentrée, aux éditions Puy 23. Voilà, donc normalement, je vais en parler un petit peu plus.
Tu peux pas pour le moment nous dire.
Bah alors, en fait, si, c'est parce qu'il est écrit il y a longtemps. En fait, il s'appelle Au Mic Citoyen et c'est justement sur la manière dont le fait de prendre le micro est déjà un acte politique et engagé en soi, en fait, sans forcément que le texte soit engagé. et comment justement, bah, finalement, cette tradition de l'engagement à travers le rap français, elle vient poursuivre une vraie culture républicaine et des lumières, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, finalement, et qu'il y a quelques. Mais qui n'est pas forcément celle qu'on met en avant aujourd'hui du côté du pouvoir. Voilà, c'est aussi ça. Donc voilà, donc il y a cette dimension-là où je passe aussi beaucoup sur les liens avec le travail social, enfin, et comment finalement le rap s'intégrer, enfin le hip-hop s'intégrer aussi au travail social et se rencontre en termes de valeurs. Enfin voilà, donc ça. Et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, bah vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et ou d'ailleurs sur Instagram, bah j'essaye de faire une petite citation par jour, qui sont donc de moi, parce que a priori si je ne dis pas de qui c'est que c'est de moi. En général, sinon je précise. Voilà. Non mais parce que les gens m'ont demandé, j'ai dit non, je vais pas écrire qu'en plus c'est de moi quand c'est sur mon compte. Là, il y a un moment, faut arrêter. Voilà. Okay. Donc voilà.
Super. Bon, j'aurais bien demandé à Michel où c'est qu'on pouvait le retrouver, mais il a une panne de courant. Donc, ouais. On l'a perdu. Michel, de toute façon, vous savez, hein, Chronomusique, K-R-O-N-O-M-U-Z-I-K, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Il est partout. Il est même sur Spotify maintenant. Vous pouvez écouter ses musiques et tout. C'est incroyable. Moi, c'est à peu près pareil. Vous pouvez me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux à Salman Sali, @SalmanSali. N'hésitez pas à checker aussi les autres vidéos que je fais sur la chaîne Monte le son sur YouTube. Et puis, vous le savez, abonnez-vous, que ce soit en audio, en vidéo pour ce podcast. Donnez-nous de la force. On se répète, mais on a besoin de ça pour pouvoir dire derrière, regardez, ça se passe bien, on a des vues, on continue, on fait de mieux en mieux. C'est important, voilà. Merci beaucoup, continuez bien votre été. On se retrouve à la rentrée en septembre. À très vite.
Bel été, merci.
Merci, Benjamin.